savane du Salaisangue, une promenade menée par le Simbo, et en même temps également une déclamation avec quelques chansons de poèmes écrits par Gaston Bessette sur le square de la Victoire, c'est-à-dire là où était l'ancienne mairie. Donc ces trois manifestations vont montrer combien le patrimoine permettait justement de recevoir la culture hors les murs, hors des lieux classiques, sanctuarisés parfois, que sont les médiathèques ou les théâtres, même si notre théâtre a une belle programmation. Ensuite s'est tenu, ce week-end dernier, le centenaire de l'école de Vauguière. Vous avez plusieurs imputations relatives à cette manifestation. Une manifestation qui a permis à la fois de rendre hommage à toute la communauté éducative, et surtout de voir se rassembler anciens et nouveaux, échanger des souvenirs, et autour d'un repas convivial qui n'a pas manqué de piquant. Donc, remerciement à tous les services et également à tous les acteurs, notamment les habitants et la communauté éducative. Madame l'inspectrice nous avait gratifié de sa présence et d'un petit discours, et le général Irasporza, sur les propositions de Christian Claverie, avait également relaté quelques grands moments de la guerre, une guerre qui avait touché l'école de Vauguière, puisque en mai 1944, un obus avait détruit une partie de la Prusse. Vous avez ensuite, merci à toutes ces personnes, et mis à part une météo qui a presque la suite compromis la fête des agapes. Nous avons ensuite, en page 3, toute une série de sommes relatives à la réhabilitation des comtes évêques de Melgueil. Donc, le château, la réhabilitation du château acheté en 2007 commence enfin, presque 10 ans plus tard. Ce n'est pas que le temps des procédures, c'était aussi le temps de budgéter, de proposer un projet, le temps également de demander les subventions, puisque la DRAC nous a accordé 465 000 euros, que la région et le département risquent d'abonder un petit peu plus. Donc on a enfin défini un projet et les entreprises étaient à pied d'œuvre déjà samedi dernier pour la menée de chantier. Voilà. Donc le patrimoine se révèle et c'est une bonne chose, en complémentarité de ce qui a été pour le jardin de la Motte dans les mandatures précédentes. Donc nous sommes toujours sur les mêmes lignes de réhabilitation du patrimoine. Nous avons ensuite tout un tas de marchés. Voilà. Le schéma directeur avec l'agence de communication en public et les fournitures pour les écoles maternelles et primaires. Voilà. Oui. Classique par rapport à la rentrée. Oui. Oui, Madame Combarnos, mes services me disent que le 4 août, il y a un accusé de réception comme quoi vous avez eu le compte rendu. Le 4 août, vous l'avez reçu. Essayez de regarder. Hein? Voilà. Voilà, donc, écoutez,
j'ai dû le faire, là.
Vous le vérifierez, hein?
Oui, je...
Voilà, donc maintenant, on en vient, monsieur Pradeil.
Nous avons pour écrit une question.
Alors, autant pour moi, il y a une question que vous avez posée, que je propose au conseil de traiter, une question relative au camping des Saladelles. Et je propose de traiter cette question en fin de séance pour ne pas, compte tenu de l'actualité, la présence de Claude Arnaud et de son équipe, bien entendu, je propose d'inscrire, si le conseil municipal est d'accord, une question relative au transfert de gestion du camping des Saladelles de Cardon à la société Caprin. Si le conseil municipal m'y autorise, qui est contre, qui s'abstient, dont nous traiterons ce point sera rajouté en questions diverses à l'ordre du jour. Voilà, donc nous passons au projet de délibération numéro 1, qui, comme nous l'avons relaté tout à l'heure, relatif à l'accord cadre de coopération entre les communes de Lunel et de Moguio-Carnon. Donc, dans le contexte d'une recomposition du paysage intercommunal dans les années à venir, donc les communes de Lunel et de Moguio souhaite renforcer les liens et les opportunités de collaboration entre elles par la mise en place de l'accord cadre. En fait, on a déjà des relations, mais qui se finalisent petit à petit par des conventions qui concerneront la culture, comme l'a dit Claude tout à l'heure, la médiation de la jeunesse, la vie scolaire, la vie sportive associative, les traditions camarguaises. Je dirais que ça serait le lien le plus évident, hein, avec nous sommes aux portes de la petite Camargue, vous êtes déjà plus loin que les portes, vous êtes déjà à la maison. Voilà. Donc, et les renforts de police municipale. Alors, il y a ce qui est imposé parfois par le côté gendarmerie, c'est-à-dire c'est une décision de l'État, mais nous avons des fêtes votives qui se déroulent dans la foulée. Nous avons de temps en temps peut-être des coopérations, des mises à disposition avec nos polices, ou parfois au niveau du travail de prévention qui est mené avec l'espace, le pôle jeunesse et médiation, il y a tout un tas de choses possibles. Voilà, donc tout à l'heure, Claude vous a relaté, monsieur le maire de Lunel, vous a relaté les points forts qui ont été cités. Donc tout cela n'implique rien d'autre qu'un accord. Alors là, c'est le match retour aujourd'hui par le conseil municipal de Moggio pour justement, disons, acter de ces intentions qui nous amèneront avec les services d'une part et consécutivement aux orientations qui ont été données par les élus. Je sais qu'il y a déjà des complicités qui sont de vieilles complicités au niveau de la culture peut-être, au niveau de la bovine, au niveau de la jeunesse, au niveau des scolaires. Voilà, donc ces complicités, je pense que ce document ne peut que les conforter, les encourager. Et finalement, c'est la première fois qu'on passe aux actes pour quelque chose qui a du sens dans un cénacle autre que dans le lieu que le conseil municipal où l'expression démocratique trouve toute sa justification. Voilà. Donc, je vous propose d'acter de ce partenariat dont vous avez tenu les aboutissants. Monsieur Bourguet, avant de voter, peut-être, une question ?
Oui, non, je veux intervenir parce que...
Vous avez la parole.
Voilà. Donc, bon, monsieur Arnaud, bonjour, merci d'être là. Je vais voter contre cet accord cadre. Je vais voter contre cet accord cadre parce que les communes travaillent ensemble, soient partenaires sur les événements, c'est tout à fait normal. Que les intercommunalités soient partenaires entre elles, c'est tout à fait normal. On a plein de choses à faire en commun. Mais là, signer un accord cadre tel que vous le présentez, dans le cadre d'un éventuel changement des périmètres intercommunaux, etc., c'est une affaire éminemment politique. Là, on est dans un débat politique de la recomposition en 2020 peut-être de nos intercommunalités. On n'est pas dans un accord cadre pour faire les courses camarguaises ensemble, c'est pas vrai. Cet accord cache quelque chose, une discussion politique qui va bien au-delà de ça. Donc c'est pour cette raison que je voterai contre.
Monsieur Bourguet, c'est votre droit le plus absolu. Je peux vous dire que des contacts ont été pris depuis assez longtemps avec la ville de Montpellier. Et que, dans un deuxième temps, des accords cadres sur des thématiques de compétences communales pourront, si les assemblées délibérantes en sont d'accord, également signer les mêmes dispositions. C'est-à-dire que, en fait, c'est la concrétisation, j'allais dire, de relations de bon voisinage. Je ne pense pas que ce soit une idée qui vous choque.
Non, non, c'est ce que j'ai dit au début.
Voilà.
Il n'y a pas de problème à ce qu'on fasse des choses ensemble. Et au contraire, c'est même le mieux.
Voilà.
Là, on est en train de formaliser quelque chose dans le cadre de l'étude de nos futures intercommunalités. C'est autre chose. C'est un débat qui aurait dû se faire avec les autres communes qui nous séparent, parce qu'il y a des communes qui nous séparent de Lunel et qui font partie de notre intercommunalité. C'est un débat qu'il aurait fallu avoir au sein de l'agglomération du Pays de l'Or. Là, on est en train de donner des signes d'un affaiblissement du Pays de l'Or, comme quand il y a eu l'étude sur la métropole. On est en train de montrer que Moggio, finalement, ne se sent pas bien dans le Pays de l'Or. Voilà les signes qu'on est en train de donner.
Ça, c'est votre analyse,
oui,
monsieur Bourguet.
Oui.
Les communes du Pays de l'Or sont des communes partenaires avec lesquelles nous menons le projet Pays de l'Or de l'île 30, des communes avec lesquelles nous menons l'économie, des communes avec lesquelles nous votons les financements, des communes avec lesquelles nous sommes en train de rédiger un SCOT. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre et que effectivement, aujourd'hui, la dimension que cet accord cadre souhaite donner, que nous souhaitons donner, le Claude Arnaud, c'est justement aller au-delà d'une logique administrative imposée par le rythme des décisions de personnes qui ne vont pas forcément nous consulter. En 2020-2022, vous le savez très bien, on n'a pas été tellement consulté pour une certaine aventure. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, nous affichons, oui, on fait de la politique, oui, j'affiche des intentions politiques avec le pays de Lunel, j'en afficherai d'autres avec la ville de Montpellier.
C'est pas avec le pays de Lunel, non, c'est avec la ville de Lunel. C'est pas la même chose.
Avec la ville de Lunel, on est d'accord, j'ai bien dit que c'était de la ville. Voilà, c'est tout. Donc après, ça peut ne pas vous plaire, après chacun jugera. Monsieur Pradel.
Monsieur le maire, permettez-moi de saluer la présence de monsieur le maire de Lunel, de ses conseillers majoritaires, aussi de saluer la présence de la gauche lunelloise, des conseillers municipaux présents dans le public. Il est bon de leur redire, en les accueillant, toute l'amitié que nous avons pour la ville de Lunel, pour les Lunellois, et pour les habitants des villages du Lunellois que nous n'oublions pas. Permettez-moi cependant de tenir un propos dissonant et de me faire l'écho ici des inquiétudes et des agacements des habitants de Montguiau, de Carnon et du Pays de l'Or. Les rumeurs se succèdent depuis avant la présidentielle. C'est un secret de polichinelle. Yvon Bourel manœuvre contre l'agglomération du Pays de l'Or, où il est minoritaire et isolé. C'est tellement vrai qu'une mission a été commandée, que l'on nous a réunis, nous les élus, à huis clos, pour nous demander notre avis sur un rapprochement avec Montpellier. D'ailleurs, on a argumenté en nous certifiant que l'intégration dans la métropole serait sans incidence financière, ni pour les comptes de la ville, ni pour les contribuables. Depuis mes protestations, on m'a promis une note chiffrée des services que j'attends toujours. Nous en étions restés à la métropole, nous voilà Pescaline. Pour préparer la recomposition du paysage intercommunal, on nous propose un accord cadre de coopération, avec un item sur les traditions, sur le sport, sur la culture et la jeunesse. Vu depuis Lunel, mes collègues conseillers municipaux de gauche me disent que la situation est tellement catastrophique que toutes les bouées sont bonnes à prendre. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont voté pour. En effet, dès 2001, M. le maire de Lunel a liquidé son pôle jeunesse, pour des raisons idéologiques, puis l'a asséché, puis fermé sa maison de la culture, de la jeunesse et de la culture, sa MJC, en coupant les subventions. Ce n'est que sous la pression des événements, des tristes événements de Lunel, et de l'État, que l'on vient de réinstaller un embryon de service jeunesse. Aussi, permettez-moi de sérieusement me questionner sur la qualité du contenu que nous pourrions donner ensemble à cet accord cadre.
Monsieur Pradeil, je ne ferai pas de commentaires.
Je termine et
oui, je... il vaut mieux que vous terminiez.
Et je
vous dis, dépêchez-vous.
Et je vous rends...
Voilà, c'est tout.
Monsieur le professeur, vous êtes en retraite. Vous
non, je suis ici, c'est le maire.
Cet accord cadre, cet accord acre, me choque pour une autre raison. On fait semblant de coopérer sur les compétences municipales, alors que l'on a que l'intercommunal en tête. C'est de la manœuvre politicienne dans notre temps, avec des méthodes à bout de souffle. Je suis lucide, j'ai bien lu les interviews récentes de mon collègue Laurent Capelletti dans un journal satirique local. En tant que nouveau marcheur, on veut nous faire avancer à marche forcée vers la métropole. Mais j'ai aussi lu dans le même article l'interview du député Patrick Vignal, marcheur à pas de loup, qui préconise d'abord un rapprochement avec Lunel, pour ensuite rejoindre la métropole. Il nous annonce qu'il va se faire confier une mission par le ministre de l'Intérieur au sujet de nos intercommunalités. Ce qui explique mieux, vous voyez, monsieur le maire, les tuyaux que vous avez quand vous appelez dans un superbe euphémisme le contexte de recomposition attendue de paysage intercommunal. Alors avons-nous sous les yeux un protocole en marche? Est-ce un protocole de ceux qui se sont simplement fâchés avec Rossignol? Ça n'a pas réellement d'importance. Ce qui est important, c'est que nous ne discutons pas assez de l'intérêt général. Nous ne parlons pas de transport, nous ne parlons pas de logement, nous ne parlons pas de mixité sociale, nous ne parlons pas de fiscalité, nous ne parlons pas de développement économique et nous ne parlons pas de solidarité intercommunale librement consentie. Nous n'avons pas de débat susceptible d'éclairer nos concitoyens. Je vous ai souvent soutenu lorsqu'il s'agissait de faire respecter Montguiau à l'intérieur du Pays de l'Or, y compris lorsqu'il s'agissait de désigner de nouveaux élus à l'agglomération. Mais là, je vais voter contre ce protocole, parce que vous ne menez pas un combat dans notre territoire, mais bien contre notre territoire. Parce que l'histoire nous a montré que l'on ne peut rien construire de solide pour Montguiau si l'on ne convainc pas et si l'on n'amène pas l'ensemble de nos amis du Pays de l'Or. C'est notre rôle historique de ville-centre, et cela dépasse les majorités, qui, à la ville comme à l'agglomération, ne sont que de passage. Je vais voter contre ce protocole pour dire à nos amis du pays de l'or qu'il reste des élus à Mobio qui croient au développement de notre territoire tel qu'il est aujourd'hui conformé, qu'ils croient au partenariat apaisé et fructueux de nos voisins, avec nos voisins, que ce soit Montpellier ou que ce soit Lunel, que ce soit les deux entités métropolitaines ou la communauté de communes du Lunellois, que ce soit même la ville du Gros-du-Roi. Mais je leur dis surtout à nos amis du Pays de l'Or que le vent est mauvais et que la situation de marginalisation de la ville-centre ne saurait durer davantage. Comme je souhaite terminer sur une note positive, je vous fais une proposition. Vous souhaitez travailler à un projet de territoire. C'est du moins ce que j'avais noté lors de la restitution de la fameuse mission menée par M. Boeuf. Faisons-le. Faisons-le avec les habitants. Faisons-le en transparence. Faisons-le avec nos voisins. Invitons le maire de Lunel, de Montpellier, de la Grande Motte. Invitons les présidents d'Interco pour discuter de ce que nous voulons réellement faire ensemble. Faisons de la politique. Faisons de la politique avec un grand P.
Monsieur Prodeil, je ne ferai qu'un seul commentaire, celui d'une courtoisie que vous n'avez pas eue vis-à-vis de notre hôte, et ce n'était pas le lieu pour exprimer ce que vous pensez, que vous êtes peut-être seul à penser autour de cette table, par rapport à certains commentaires et à certaines leçons que vous voulez donner. Bon, c'est tout. Je ne vous répondrai pas, je vous laisse la responsabilité de ces propos, qui sont pour le moins discourtois. Monsieur Capelletti, inacceptable.
Bonsoir. Donc je salue monsieur le maire de Lunel et ses conseillers municipaux, et je salue mes amis constructifs, nombreux dans la salle. Pour prendre une décision de vote, il faut chercher au-delà de la politique, il y en a toujours, bon, puisqu'on fait de la politique. Il faut voir si c'est bon ou pas pour Moguio-Carnon, nous concernant. Point. Sinon, on en reste à la surface. Un accord cadre avec Lunel, c'est bon pour Lunel et c'est bon pour Moguio-Carnon. Donc ça me semble incontestable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors après, on peut faire de la posture, de l'esbrouf, de l'agitation. Ça fait partie du jeu. Je ne suis pas contre. Enfin, c'est marrant. Ça peut être aussi le démarrage, effectivement, vous l'avez rappelé en introduction, ce sont deux villes-centres, donc on peut très bien être dans une agglomération, et par ailleurs, en fait, ne pas oublier qu'en tant que ville-centre, on a aussi, en fait, une liberté d'initiative. Ça, c'est le deuxième point. Liberté d'initiative vers Lunel, liberté d'initiative vers Montpellier, vous l'avez rappelé, c'est la coopération qui est créatrice de valeurs sociales et économiques, et non pas le rétrécissement et le fait de rester dans son petit enclos tout racorni. Et enfin, donc, le troisième point, c'est que si on a peur de faire des accords cadres avec des communes avec lesquelles on a une histoire, peur de déplaire, mais à qui ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À ce moment-là, autant arrêter tout de suite de faire de la politique locale. Voilà.
Merci M. Capelletti. Chacun s'est exprimé. Je propose à Claude Arnaud de prendre la parole avant de passer au vote.
Ici, nous sommes invités. Je ne ferai pas une longue polémique, une longue discussion, mais par rapport à ce que je viens d'entendre, il s'agit bien dans l'idée du maire de Lunel, de sa majorité, de l'opposition de Lunel. Il n'y a aucune intention politique derrière. Voilà. Nous n'envisageons pas de manœuvrer contre qui que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai cité des exemples. Par ailleurs, je crois qu'il faut coopérer avec tous nos voisins, quels qu'ils soient. Il s'agit d'une question de solidarité entre nous. Et nous serons tous disposés à coopérer avec les temps de l'or, au moins autant qu'avant, sinon plus si nous le pouvons. Ça se fait souvent à deux. Les mariages se font à deux. Voilà. Et au niveau de notre intention, aucune manœuvre de notre part. Il n'y a rien d'intentionnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner.
Merci Claude, puisque tu as l'occasion de parler également à notre président dans le cadre de la conférence des présidents. Donc je suis, j'allais dire, honoré que l'échelle communale soit également un espace de dialogue en dehors de celle intercommunale, dans des rapports pacifiés, aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest, et qui nous anime dans nos intentions. Voilà. Donc, merci pour ces propos. Je vais passer au vote. Qui est contre la proposition de signature de convention de l'accord cadre tel qu'il a été présenté? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, avant de passer au deuxième point, donc je vais demander une petite interruption de séance, 2 minutes, le temps de laisser à nos amis lunellois le temps de regagner la sortie, et je vous raccompagne. Nous reprenons le conseil avec le point numéro 2. Alors, le point numéro 2 qui est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la collectivité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Comme vous le savez, l'ouragan Irma a touché de manière vraiment dramatique beaucoup de populations aux Antilles, et je vous propose de signer, d'approuver le vote d'une subvention que nous répartirons entre 1 500 euros pour Saint-Martin et 1 500 euros pour Saint-Barthélemy, 3 000 euros au total, en laissant la possibilité également au mouvement associatif, parce que cela nous a été demandé, de soutenir. On a une partie de la population melgorienne, quand je dis une partie de la population, on a quelques melgoriens qui vivent aux Antilles. Ces personnes sont venues nous voir. Elles sont venues nous voir pour nous demander de l'aide et pour nous dire également qu'elles étaient prêtes à aider leurs collègues. C'est-à-dire qu'on a reçu un ressortissant melgorien qui nous a dit qu'il avait des gratuités pour acheminer du matériel vers les Antilles. Il y a des transporteurs qui ont fait œuvre de solidarité, je les en remercie. Et il m'était difficile de lui proposer de l'argent que pour les Melgoriens et pas pour les autres. Donc ce que je propose ce soir, c'est le vote d'une subvention avec, si vous voulez, d'entité à entité, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, j'y arriverai. Et également, j'ai suggéré à cette personne de monter une association en préfecture, de sorte que s'il y a, que j'inviterai, en tout cas, j'informe le tissu associatif ou les personnes, les particuliers, s'ils veulent verser un don pour les Melgoriens, un don qui est fléché, ils peuvent le faire. Mais au niveau institutionnel, en tant que maire de la commune, je ne peux pas faire une distinction qui serait pas correcte humainement. Voilà, c'est tout. Donc, nous avons une écoute pour nos Melgoriens, on les connaît. Certains ont la famille à Mugio. Donc il y a déjà des actes de générosité qui se sont manifestés, et je remercie toutes les personnes, mais au niveau de l'institution, je vous propose cela, voilà, en encourageant, si vous voulez. Alors on mettra dans le compte rendu du conseil municipal l'association qui avait du mal à se monter, parce que à ce jour, je crois qu'elle n'était pas encore déclaré en préfecture. Je ne sais pas vers qui je me tourne. Jean ?
Je ne suis pas au courant.
Tu n'es pas au courant, mais non, mais non. Voilà, donc j'ai reçu, j'ai reçu Jean-Pierre Molina, je peux dire qui c'est. C'est un Melgorien qui vit là-bas et qui, à qui j'ai suggéré de monter. Il m'a dit qu'il n'était pas arrivé. Enfin, peut-être qu'il était arrivé dans la journée, je ne sais pas. Mais je vous donne l'information. Voilà. Si vous en êtes d'accord, donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour votre solidarité. Et on passe maintenant au point numéro 3, qui est le budget supplémentaire, qui est, disons, le point important de l'ordre du jour, ce qui concerne les destinées financières de notre commune et leur gestion. Caroline, c'est à toi.
Alors, je vais vous présenter ce soir le budget supplémentaire 2017. Le budget supplémentaire a trois fonctions. La première, c'est celle d'intégrer les résultats du compte administratif de l'année précédente, c'est-à-dire 2016. La deuxième, c'est celle de faire les ajustements. Après 9 mois d'exercice, on va faire les ajustements par rapport au budget primitif qui était prévu, aux prévisions. Et la troisième fonction, c'est d'intégrer les nouvelles opérations. Alors, ceci dans quel contexte ? Le contexte financier des collectivités locales est encore restreint. Le président de la République nous demande de faire 3 milliards d'économies par an. Il nous affirme par contre qu'il n'y aura pas de baisse brutale de la dotation globale en début d'année 2018, à condition que les collectivités fassent des efforts d'économie. Alors, la commune doit rester vigilante, doit maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour garantir à la fois le plan pluriannuel qui est ambitieux pour notre commune et le schéma directeur à venir. Et ce soir, je peux vous affirmer, après constitution du BS, que notre équipe municipale a réussi à atteindre cet objectif. Nous avons maintenu la sincérité du budget primitif, c'est-à-dire sans l'altérer avec le budget supplémentaire, en intégrant des dépenses qui auraient été trop importantes. Pas de recours à l'emprunt, pas de recours à une hausse d'impôts. La maîtrise des dépenses a été maintenue. Alors, si depuis le mois d'août l'année dernière où j'ai pris cette fonction, j'ai pu rencontrer les différents banquiers avec nous qui nous travaillons. Et tous disent que nous avons d'excellentes finances, que la gestion des comptes est excellente. Et croyez mon expérience, quand c'est le banquier qui le dit, c'est que les comptes sont bien tenus. Donc maintenant, je vais vous démontrer pourquoi je peux vous affirmer ce soir que l'objectif a été maintenu après le BS et que les comptes, effectivement, de la commune sont bons. Alors, on va commencer toujours, comme d'habitude, par le fonctionnement, la section de fonctionnement. Alors, ce que je vous ai mis là, vous avez les dépenses réelles, la colonne de gauche, et les recettes réelles. Alors, ne vous offusquez pas avec les montants qui étaient prévus au BP, c'est-à-dire les montants qui sont en bas. Ils sont différents. Alors, non pas qu'on fasse des budgets qui ne sont plus équilibrés sur la commune de Mauguet-Carnon, mais parce que c'était vraiment pour vous montrer le BS, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en supplément cette année. Donc, on a pris uniquement les dépenses réelles et les recettes réelles, c'est-à-dire que ça n'intègre pas du tout les résultats. C'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes montants en bas. Donc, il était prévu au BP des dépenses réelles à hauteur de 22 577 600 et nous avons rajouté au BS 895 944. Je vous expliquerai ce qu'il y a dans ce montant qui, à première vue, peut paraître important. Au niveau des recettes réelles, il était prévu 25 651 600 euros de recettes et nous avons rajouté au BS 310 100 euros de recettes supplémentaires. Même chose, je vais vous détailler bien sûr de quoi il s'agit. Alors, au niveau des recettes réelles de fonctionnement, l'ajout le plus important, ce sont les impôts et taxes, les 217 400. C'est composé par tout ce qui est taxes d'habitation et taxes foncières. Non pas que nous ayons augmenté les taux, ça c'est, on l'a dit, il n'y a pas eu d'augmentation de taux, mais ce sont les bases physiques qui ont été augmentées. Les bases physiques, ce sont le nombre tout simplement d'immobilier, d'habitation. C'est pour ça qu'il y a eu cette recette supplémentaire. D'autre part, vous avez à l'intérieur toujours de ce montant 50 000 euros de prévu de droits de mutation, c'est-à-dire toutes les opérations qui passent chez le notaire. Là, on a estimé à 50 000 euros. Ensuite, vous avez bon, produits et services du domaine, 5 000 euros. Dotation et participation, 16 200 euros. Alors là, à l'intérieur, vous avez... Alors, ce chiffre aurait pu être beaucoup plus important parce qu'on a eu une compensation de 58 700 euros due à... Vous savez, l'année dernière, il y avait eu une suppression de la demi-part pour les veufs et veuves, qui a été remis en place cette année. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a perçu un peu plus de taxes d'habitation, puisque les gens avaient droit à des dispenses auxquelles ils n'ont plus droit cette année. Mais ces 58 700 euros de plus que nous aurions dû, enfin, que nous avons perçu, ont été effacés par la baisse de la DGF de 55 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que 16 200 euros de différence. Alors, on a eu une subvention de 8 000 euros pour les élections et le FCTVA, 4 500 euros de plus. Ensuite, au niveau d'un autre point important, atténuation de charges, 22 000 euros. Alors là, il s'agit du remboursement des assurances dans le cadre... des assurances du personnel, c'est-à-dire suite à des absences dues à la maladie. Tout ça, je vous l'ai dit. Donc, les recettes, et on a aussi 39 000 euros aussi, dont je ne vous ai pas parlé. Alors, les 39 000 euros, il s'agit de 22 000 euros de subventions exceptionnelles. Alors ça, c'est tout le mécénat et le partenariat que nous avons obtenu, notamment pour le financement de la Wake Up, de la fête du sport et de la Romeria. Et puis 17 000 euros de remboursement d'assurance suite à des sinistres. Donc on peut dire qu'au niveau des recettes réelles de fonctionnement pour le BS 2017, vous voyez qu'il n'y a pas eu de gros ajustements. Alors, on va passer maintenant aux dépenses réelles de fonctionnement. Donc vous voyez un chiffre qui peut paraître comme ça important, c'est-à-dire qu'on a ajouté dans les dépenses de fonctionnement 900 000 euros sur le BS. Donc je vais vous rassurer de suite, la moitié de cet ajout des dépenses est due donc à hauteur de 467 000 euros, est due au FPIC, le fameux FPIC, vous savez, le fonds de compensation qu'on verse aux autres communes. Donc cette année, il est de 40... Non, nous avons dû rajouter, pardon, 44 000 euros sur ce qui était prévu au BP initialement, qui était 400 000 euros. Et la deuxième chose... Alors, juste pour vous donner quand même un ordre d'idée, 2017, le FPIC était de 453 000 euros. En 2015, il était de 238 000 euros. Hein, pour vous resituer les augmentations. Et la deuxième raison qui constitue ces 467 000 euros, c'est l'amende que nous avons eue au niveau de la loi SRU, 423 000 euros, pour le manque de logements sociaux. Alors, les charges, ça c'était le point, voilà, le plus important des 467 000 euros qui rajoutent, donc la moitié, qui justifie la moitié des dépenses réelles supplémentaires. Charges à caractère général, nous avons ajouté 379 500 euros. De quoi sont-ils constitués? Vous avez les contrats et prestations de services, on a rajouté 30 150 euros. Il s'agit notamment de tout ce qui est nettoyage, sanitaire, voirie, Mobio Carnon, et notamment l'augmentation des passages pour ce nettoyage. Vous avez tout ce qui est aussi remise en état du mobilier, notamment les aires de jeu sur la commune, et vous avez 120 000 euros de dommages ouvrages que nous avons dû ajouter pour les trois gros projets qui arrivent, c'est-à-dire le château, le yacht club et l'île au Prévert. Vous avez 59 100 qui sont aussi des... Alors, tout ce qui est communication, schéma directeur, études de tourisme, communication auprès, par exemple, du centenaire de l'école de Vauguerre, etc. Voilà. Et est à noter que dans les dépenses réelles, cette année, OBS, nous n'avons aucun ajout pour les dépenses à charge de personnel. Donc merci Monsieur Tricoire, continuez comme ça, c'est parfait.
On a...
c'est pas pareil d'avoir votre sens. Là, je suis calme. Merci.
C'est plutôt bon signe, hein. C'est la même maîtrise devant les dépenses de personnel et devant un incendie. Moi, ça me rassure. Hein. Alors, au niveau de toujours des dépenses, il y a aussi, rentre dedans tout ce qui est participation, gestion courante, tout ce qui est subvention aux associations et virement à l'Office du tourisme. Alors, au niveau des associations, je vous donne quand même quelques exemples, puisque c'est intéressant pour vous, comme pour moi, de savoir à qui on a donné. On a rajouté OBS, Plaisancier de Carnon, Chorégraphia, l'école de danse, les clubs Taurin, Loubiou, le Trident, le Melgueil, école de raseteurs melgorien, et puis on va rajouter la subvention qu'on envoie pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ça on ne l'avait pas quand on a établi le BS. Pardon ? Ah, j'ai pas l'accent, pardon. Avec toutes mes excuses, je vais faire un effort. Donc voilà pour les dépenses. Voilà pour les dépenses réelles de fonctionnement. Alors, suite à ce BS, quels sont les impacts au niveau des équilibres financiers ? Là aussi, je vous rassure, nous sommes arrivés à l'objectif. Je dis bien nous parce que c'est l'effort de chacun des élus et de chacun des services concernés par ces élus. On revoit que l'effet ciseau, rappelez-vous, en 2015-2016, on le craignait en 2018. Grâce aux efforts qui ont été faits tout de suite à partir de 2014, des économies réalisées et maintenues, le BS nous le justifie ce soir, nous arrivons toujours à éloigner cet effet ciseau. Donc je vous rappelle, en signe, nos recettes restent supérieures à nos dépenses. En général, c'est ce qui fonctionne le mieux. L'épargne brute, du coup, se tient toujours aux alentours, même pas aux alentours, elle est à 10%. C'est ce qui est souhaité pour être signe de bonne gestion des comptes. Ces 10%, on voit derrière que d'ailleurs c'est la situation des collectivités à fin 2016. Donc on est bien dans la situation dans laquelle sont les communes qui gèrent bien les comptes. On passe maintenant, si vous voulez bien, à la section d'investissement. Alors la section d'investissement... Ce slide vous présente les dépenses nouvelles hors opération, c'est-à-dire que vous sortez là du PPI. On est sur les nouvelles opérations, c'est-à-dire les opérations qu'on a bien rajoutées en 2017 sur l'EBS. Donc ces nouvelles dépenses hors opération sont à hauteur de 282 000 euros. Donc des exemples, vous avez les services techniques administratifs divers, la sécurité, la voirie, les bâtiments, l'accueil, l'informatique, le scolaire, les services logistiques événementiels, le sport et la vie associative, donc qui ont eu des opérations pour lesquelles il a fallu rajouter OBS. Alors, à noter que ces opérations, toutes ces opérations, alors vous avez le détail au niveau des budgets, si à la fin de la présentation vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces opérations, ces coûts qui ont été rajoutés, c'est toujours dans l'optique de suivre la ligne de conduite que l'équipe s'est mise, c'est-à-dire la qualité du service. C'est pas, comme on l'a dit, hein, ce ne sont pas des dépenses, futiles, si on peut dire ça, sur un budget, ou si vous en doutiez encore. Donc on est vraiment sur des opérations pour améliorer toujours le service public. Alors, comment avons-nous fait pour financer ces dépenses ? Alors, il y a deux, trois façons. On a eu un complément du FCTVA à hauteur de 47 000 euros, des amendes de police qui nous ont rapporté 31 000 euros de plus que prévu, Alors là aussi, pour vous donner un ordre d'idée, le FCTVA, nous attendions 400 000 euros. C'est bien d'avoir quand même des normes. On attendait 400 000 euros et on a eu 447 000 euros. Au niveau des amendes de police, nous attendions 133 588 euros et nous avons eu 31 000 euros de plus. Et la dernière piste pour financer ces nouvelles opérations, c'était les économies qui ont été faites par rapport aux investissements prévus au budget primitif, de l'ordre de 204 000 euros. C'est pour ça que nous arrivons à maîtriser ce budget. C'est ce qui nous montre que même s'il y a des dépenses supplémentaires, le budget nous permet, est toujours maintenu et surtout avec les équilibres financiers maintenus. Alors maintenant, si vous voulez bien, on peut voir les opérations du plan pluriannuel. Pour le BS 2017, qu'est-ce qu'on a ajouté ou qui était déjà prévu, hein, mais qui ont été réalisés sur le BS par rapport aux opérations du PPI? Donc, le schéma directeur, on a rajouté 73 000 euros. La rénovation des terrains de tennis, 7 000 euros. La fond de Mobio, création du fossé nord, 450 000 euros. Le yacht club, 1 100 000. Le château, 1 380 000. Le jardin du bosquet, 100 000 euros. Le terrain de la fond de Mobio, 621 000 euros. Et la rue Jean Moulin, 425 000 euros. Alors, ce qui est à retenir, c'est que le PPI, en intégrant le BS, s'élève à 23 300 000 euros entre 2017, 23 millions, pardon, 23 300 000 euros entre 2007 et 2020. C'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, pardon, je me permettais de parler de PPI ambitieux. Alors, par quoi est financé le PPI, le plan pluriannuel? Eh bien, en premier lieu, par notre fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est-à-dire l'exercice 2016. Rappelez-vous, lorsqu'il y a des questions qui se posent sur pourquoi nous avons autant de fonds de roulement, pourquoi on garde cet argent qui dort, cet argent ne dort pas. Cet argent nous sert à financer les opérations ambitieuse que nous avons pour projet de réaliser jusqu'en 2020. Et ensuite aussi, les subventions, les taxes d'urbanisme, les cessions de biens et les emprunts, puisqu'on sera amené à faire un emprunt en 2018. Alors, là, pour vous le montrer, nous avons prévu ce petit schéma. Ça vous montre exactement comment nous finançons nos projets et surtout, pourquoi on a besoin de notre fameux fonds de roulement? Vous avez...
Il existe
maintenant. Oh, il a toujours existé. Hein. J'aurais aimé vous amener 4 millions avec ma venue, mais non, le fonds de roulement
a toujours existé. On a le droit d'en parler.
Oh, je pense qu'on en parle depuis bien un bon moment. Hein. Alors, la partie Bordeaux, ce sont nos ressources propres hors cession. Nos ressources propres pour une collectivité, c'est tout ce qui est taxes, impôts. Vous avez la partie violette, ce sont les subventions. Alors évidemment, en 2017, on voit que les subventions augmentent, puisqu'on augmente nos projets. Nos projets étant plus ambitieux, forcément, nous avons des subventions supplémentaires. Vous avez la partie orangée, qui est le produit des cessions immobilières. Et la différence, puisque le trait, lui, montre nos dépenses d'investissement. Et pour combler la différence entre nos recettes, nos ressources et notre volonté d'investissement, c'est bien le fonds de roulement que nous devons garder pour l'utiliser. Sinon, on ne pourra pas financer nos projets sans ce fonds de roulement. Et ensuite, donc, on l'a mis sur 2018, l'emprunt à venir. Notre ratio de désendettement, je vous le disais en introduction, pourquoi les objectifs sont maintenus? Parce que malgré toute notre ambition d'investissement, nos équilibres financiers sont maintenus, y compris bien sûr à la sortie du BS. Donc le ratio de désendettement reste à 5 années, ce qui est très bien, c'est un indice et signe de bonne santé pour les collectivités locales. 50, d'ailleurs, c'est exactement ce que on voyait, c'est ce vers quoi tendent toutes les collectivités qui gèrent correctement leur budget.
Il n'est pas interdit de, si on est imbécile, d'aller un peu plus haut quand même.
Il n'est pas interdit.
Merci, madame.
Donc,
c'est mieux d'investir en début de mandat qu'en milieu de mandat, sinon on impègue le mandat suivant.
Non.
Si.
Bon, on prend le débat tout à l'heure.
Oui.
Continue.
Donc, en conclusion, je vous le disais dès le début, l'objectif est atteint après ce budget supplémentaire. C'est-à-dire, nous préservons nos équilibres financiers et nous avons pour ambition de beaux projets qui vont être réalisés avant sur le mandat et sans augmentation des impôts. C'est important. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions sur ce BS? Et après, parce qu'au niveau de la délibération, il y a un petit point à rajouter en dehors du BS. Il y a une modification de solde d'exécution dans la section d'investissement. Donc ça, il faudra que je vous le notifie. Voilà.
Il y a une erreur.
Oui, c'est suite à une...
Un ajustement,
c'est ça.
De 30,49 €.
Eh oui.
Je ne pense pas que vos interventions puissent porter là-dessus. Voilà. Les questions ou le débat et le départ sont ouverts si vous souhaitez intervenir.
Oui.
Madame Combarnos.
Merci. Dans le programme pluriannuel, je vois que à Carnon, la rue de la Plage est prévue pour 2019, mais monsieur le maire, vous avez écrit aux Carnonais de la rue du Jeu de Boules que vous alliez leur faire un bassin de rétention pour pallier aux travaux de voirie qui ont été faits dans le mauvais sens. Et donc, je ne vois aucunement ces travaux mentionnés. Et donc, les gens ont très peur parce que ça risque de re-inonder bientôt.
Oui, effectivement, bon, c'est ça. La rue des Quatre Fondateurs et la rue du Jeu-Boule, ce sont des chaussées réservoirs.
Ce n'est pas les chaussées, c'est l'ancien gros qui servait de réservoir. Le bassin, vous l'avez comblé.
On n'est pas dans l'approche technique, on est dans le budget. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on doit aménager le bassin pour lui rendre sa capacité de rétention, quelle que soit sa diminution supposée en termes de superficie. Voilà. Donc, ce dont on discute aujourd'hui, ce n'est pas de l'aspect technique, c'est de la provision financière.
Tout à fait.
Et cette provision financière, elle est inscrite, elle n'est pas pour plus tard. Elle sera, dès que les travaux seront réalisés, le bassin sera en capacité de ce qu'il devait avoir. On ne rajoute pas de l'argent, madame, c'est déjà prévu.
Là, je vois le bosquet de Carnon, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on va faire quelque chose.
Vous êtes contente quand ça sera 41.
Et ça fait plusieurs minutes. Alors, il y a 40 ans, vous n'étiez pas maire, d'accord, je vous le concède. Mais au mandat précédent, ça a déjà été voté et c'est jamais fait. Donc, moi, je suis inquiète. C'est bien d'avancer plein de choses et on ne fait pas les travaux. Donc,
Le château, madame Combarnos, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple melgorien. Je vous ai dit, et c'est vrai, qu'en 2007, nous avons acheté pour 250 000 euros le château. On commence les travaux en 2017, ils ne seront pas finis avant 2018, on aura mis 11 ans. Avouez que parfois, moi-même, je pensais qu'on aurait fait plus vite que ça. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est que ça se fasse. Pour ce qui est de la sécurité, nous n'attendons pas 11 ans. Le bassin sera fait en temps et heure par rapport à l'opération d'aménagement du parking des voisins. Voilà ce que je peux vous dire.
Il y a une étude qui a été faite, par rapport à l'aménagement du parking, le parking de, on va le dire, des frères Rolfen, le parking de Rolfen, et le bassin sera remodelé.
Mais parce que la première étude de ce bassin était erronée.
Non,
les trois premières plages et la quatrième est mauvaise.
Nous avons demandé une étude hydraulique pour accepter, disons, le parking qui sera réalisé. Bon, le parking sera en drainage et le bassin sera agrandi. Voilà.
Affaire à suivre, enfin, là il y a une lettre aux gens, donc on va envoyer sur le feu. On va passer à quelqu'un d'autre, puis j'en veux moi. Ah bon? Et puis, autrement, je vois qu'on prévoit la réhabilitation du yacht club. J'informe tout le monde que c'est en zone de submersion marine et en zone de déferlement. Donc c'est mettre de l'argent à l'eau.
C'est un avis personnel, madame, que je vous ai déjà entendu dire. En revanche, moi,
pas un avis personnel. Vous avez reçu au mois de juillet dernier, le 18 juillet, l'administration vous a donné des informations là-dessus.
Si c'était interdit, l'État l'aurait dit. Je vous signale que la rue de la plage est budgétée pour l'année 2018, 220 000 euros pour 2018.
Voilà. 19, c'est marqué, 104 000 euros.
2018, madame.
Voilà. Moi je l'ai, 150 000 pour
2018. Non. Bon, allez. D'autres informations?
Oui, j'ai deux questions à poser. Après, je te laisse la parole. J'ai deux questions. D'abord, je voudrais savoir pourquoi, puisque vous avez répondu aux gens de la RD 189 que vous mettrez de l'argent sur le mur anti-bruit, pourquoi dans le PPI vous n'en avez pas tenu compte? Pourquoi il n'y a pas de ligne budgétaire pour ce mur anti-bruit de la RD 189? Et deuxième question, on achète pour 620 000 euros de terrain à la fonte de Mourio. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est?
Oui. Alors, première question, première réponse. J'ai promis aux riverains de la 189 que dans le cadre de financement que ferait le département, si le département est d'accord pour faire un mur anti-bruit, j'ai dit que la commune participerait, même si ce n'est pas sa compétence, comme elle a participé, comme elle participera au barreau qui sera au niveau de la zone de fret, où c'est une compétence départementale, régionale, aéroportuaire, et où la mairie s'engage pour le bien-être des habitants, même quand ce n'est pas sa mission première. Aujourd'hui, j'attends une notification de la part du département ou de la région ou du réseau ferré de France qui ne m'ont pas répondu encore de manière formalisée, par écrit, pour savoir si la réunion de cofinancement, comme il a été fait à but des ordres, et comme j'ai obtenu quand j'étais conseiller général, j'ai obtenu un cofinancement de la part du département de 200 000 euros. Dès lors que le département abandonnera cette démarche, la mairie, je proposerai, je ne suis pas détenteur des fonds, je proposerai au conseil municipal de contribuer à ce mur si ce mur se réalise. Mais en tout cas, je ne peux pas être maître d'ouvrage sur une compétence qui n'est pas la mienne. Comme tout à l'heure, quand je vous parle de compétences de ville à ville, nous avons des compétences dans les intercommunalités. Elles marchent plutôt bien avec certaines intercommunalités. Pourquoi ne pas le faire au niveau des communes? C'est tout. Après, le reste, c'est une interprétation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Deuxième point. Les terres qui ont été acquises par l'opération La Fonde Mourio. Ces terres-là, aujourd'hui, la SPL, leur aménagement, ne peut plus, dès lors qu'elles sont hors périmètre ZAC, les conserver. À ce titre, la commune les rachète.
Et combien d'hectares?
10 hectares.
Hein. 10 hectares.
Oui, 10 ou 11. Mais la soustraction.
Donc, leur aménagement les a achetés 4 fois plus cher que ce qu'on les rachète.
Leur aménagement les a payés 23 euros.
4 fois plus cher que ce qu'on les rachète.
Et la commune, vous devez me remercier, la commune a fait de bonnes affaires.
Oui, mais oui, leur aménagement, c'est nous qui paierons les pots cassés à la fin quand même. On est quand même conscient de tout ce qui va se passer.
Monsieur Bourguet.
Mais j'aimerais savoir dans la comptabilité de leur aménagement comment ça va se passer.
Vous êtes tout et son contraire. Dans la comptabilité.
Comment une société peut vendre 4 fois moins cher que ce qu'elle a acheté?
Monsieur.
Moi, si j'étais administrateur de leur aménagement, je ne serais pas content.
Écoutez, nous sommes une société avec une opération qui est autonome, totalement autonome, dont l'opération supportera l'entièreté des opérations, qu'elles soient au crédit ou au débours de l'opération. Malheureusement, c'est l'avis de toutes les opérations. Vous voyez, on est en train d'en faire une au niveau de la communauté d'agglomération, des ports de l'aéroport, où sur une zone de 24 hectares, on n'en fera plus que 7. Effectivement, il va y avoir des frais, et ainsi de suite, et induit par ce recul. Donc aujourd'hui, la mairie rachète à leur aménagement les terrains qu'elle avait et qu'elle ne peut plus garder. Voilà l'explication financière. L'explication financière, je
vois. Et une partie de ces terrains, c'est nous qui leur avons vendu à leur aménagement.
Qui c'est ça?
La mairie.
Ben oui.
Donc on les a vendus cher, on les rachète pas cher. C'est bien, hein, c'est de bonnes affaires.
Voilà. Écoutez, ne laissez pas entendre qu'on achète cher et qu'on vend.
Non, non, je laisse rien entendre, je veux qu'ils voient les chiffres, c'est tout.
Il y a le ZAC qui a été réduite. Ces terrains vont avoir une deuxième vie. Ces terrains aujourd'hui, ils sont propriétés de la commune, qui va mener l'opération pour accompagner la fonte de Moguio. Une opération qui va dans le sens de ce que vous souhaitez. À un moment donné, vous avez été le porte-parole des propriétaires en disant qu'ils étaient spoliés parce qu'on ne leur payait pas assez cher.
Jamais.
Monsieur Bourguet, jamais. Ça ne vous étonnera pas.
Non, jamais.
Reconnaissez-le.
Vous n'avez pas bien lu mes programmes d'élection municipale.
Non, je n'ai pas besoin d'attendre les programmes pour savoir ce que vous pensez.
Jamais.
Quand même. Écoutez.
Jamais.
Nous aussi, on fait des captures.
Jamais.
On voit les voir là le problème.
Non, non. Moi, je me suis battu.
Bon, je ne vais pas monsieur Bourguet. Voilà. Je ne rentre pas dans une polémique avec vous. Ces 10 hectares, elles vont être affectées à des jardins partagés, à un projet de transition agroécologique. Je m'y suis engagé. Leur aménagement mènera cela par-delà cette mandature et d'autres mandatures, puisque je vous le rappelle, c'est prévu. Le traité de concession va pratiquement jusqu'en 2028. Et donc on a encore plus de 10 ans pour cela. Voilà.
Donc leur aménagement, ils vont réinjecter ce déficit sur le budget de la fonte.
Non, il y a un équilibre, donc il y a un bilan d'opération, M. Bourguet, qui prévoit un bonus. N'imaginez pas un seul instant que l'opération soit une opération déficitaire. Elle sera à la fois à vocation sociale, puisque
je parle de ces 10 hectares.
Non, mais les 10 hectares, ne vous en faites pas, elles seront également. C'est l'ensemble de l'opération qui est prévue avec cette affaire et les contribuables majoriens n'auront pas à payer un centime par rapport à ces 10 hectares qui ont été enlevés de l'opération où le bonus a été proportionnellement réduit de la disparition de ces 10 hectares. Mais les comptes de l'ASP sont à votre disposition. Quand nous publierons les résultats, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous dire comment nous avons ventilé ces... ventiler ses terres et attribuer les sommes. D'autres questions, M. Pradé.
Deux éléments, quelque chose de très anecdotique, mais et quelque chose d'une analyse un peu plus générale. J'ai failli tomber de ma chaise en écoutant le président Altrad dans une interview dire que son fils joue au rugby à Moguio. Et que vraiment les clubs amateurs étaient dans une difficulté rare, qu'il n'y avait même pas ni de ballon, ni de poteau pour faire les buts. Donc je profite, je connais ça à Moguio, je ne l'imagine pas. Mais si l'adjoint coupait, tordait le cou à ce canard, ça serait mieux. Et peut-être qu'on pourrait signifier à monsieur Altrad quel est l'équilibre, et si vraiment il veut mettre un petit billet de plus, qu'il le mette, il ne faut pas qu'il s'empêche.
Monsieur Albert, Jean. Ouais, effectivement, moi j'ai appris hier hein, qu'il avait dit ça. Vous m'avez confirmé aujourd'hui. Moi, en tant que garant des activités sportives de Moguio, je peux vous assurer que des ballons et des buts, il n'en manque pas. Hein. Donc, moi, je soupçonne peut-être les dirigeants de Moguio qui se laissent peindre qu'il leur fallait des sous. Peut-être, hein. Je ne sais pas. Je sens que j'irai au bout de l'enquête. Hein. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas pourquoi M. Altrad dit ça, parce qu'il nous envoie les équipes de Toulouse, d'Agen, qui sont ici. Donc, si on n'était pas au top, ils n'amèneraient pas. Donc je ne sais pas, j'ai appris hier et j'irai au bout de l'enquête. Hein.
Bon, on s'écarte totalement du sujet, M. Pradeille.
Vous
avez là dans la digression et Dieu merci, vous êtes retombé dans votre chaise. Voilà, pour votre santé.
Sur le BS lui-même. Bon, si on compare le fonctionnement de l'année dernière à celui de cette année, l'an dernier on était à 28 millions d'euros, quand je cumule BP et BS. Et cette année, on est à 30 millions. Donc on n'est pas en train de faire des économies. Il y a 2 millions de plus. On affiche 2 millions de plus. Donc on n'est pas dans la réduction de la voilure que pourrait attendre le gouvernement.
Pour l'affirmer, il faudrait avoir des tailles. Enfin, là, comme ça, que sur des montants.
Non, j'ai juste additionner le total fonctionnement de l'an dernier et de cette année. Je ne suis pas inquiet parce que je ne pense pas qu'on va tout consommer, parce qu'on n'a pas la tradition de consommer l'ensemble de nos crédits.
On parlait du fonctionnement, hein ?
Oui, oui, du fonctionnement. Donc si ce que vous nous proposez de voter, c'était vraiment consommer tout, alors on dérape de 2 millions, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le truc ? Donc, vous nous proposez de le voter, je ne suis pas sûr qu'on le consommera. Par contre, ce qui est sûr, c'est l'atténuation de produits sur l'amende SRU. Là, on est en train de la digérer. On se prend 423 000 euros d'amende, là, maintenant. Donc, tout ça parce qu'on n'a pas tenu les clous. Et parce qu'on a décidé de ne pas tenir les clous depuis déjà pas mal de temps, depuis avant les élections. Je me suis posé la question, on a un petit retard de. On a une compensation d'exonération de taxes d'habitation qui a augmenté. On a l'État, l'an dernier nous avait donné moins 6 000 au BS, c'est ça qu'on avait affiché par rapport. Donc on a réactualisé. On était à 190 000 au BP l'an dernier, on a réactualisé à moins 6 000. Et cette année, on s'est aligné, on s'est mis à 180 000. Et l'État nous donne beaucoup plus, nous donne 78 500. Donc, je ne sais pas quel est le mécanisme. Je me suis alarmé de savoir s'il n'y avait pas une augmentation au vu des déclarations fiscales, et donc si ce n'était pas un critère de détérioration.
Alors, juste, je réponds. Vous avez fini ou sur les questions
sur cette question-là.
Non, sur celle-ci, c'est très simple. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est juste l'histoire de la demi-part. Vous savez, où je vous ai dit que les 55 000 de la baisse de DGF a été compensée par les 58 000 de ce que nous avait reversé en plus l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une année où ils ont enlevé la demi-part des veufs et veuves et des personnes qui avaient élevé pendant plus de 5 ans des enfants seuls. Et cette année, ils ont supprimé cet avantage. Donc nous, quand on a fait le BP, nous sommes restés avec les chiffres de l'estimation de l'année précédente. Or, vu qu'ils ont enlevé la demi-part, c'est-à-dire que des gens se sont retrouvés plus avec cet avantage fiscal-là, et donc on payait plus en taxe d'habitation. Mais ça, nous ne pouvions pas le savoir avant que ça allait être enlevé. Donc, si vous voulez, on a eu plus que l'année d'avant.
Là, si vous voulez, ça. Non, c'est pas ça, parce que j'arrive pas à vous suivre. Ça. J'ai l'impression que c'est un mécanisme où l'État nous donne plus, donc il compense davantage. Donc ça veut dire que les gens nous paieraient moins. C'est à peu près. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Nous paieraient moins de taxes d'habitation et que donc l'État nous compenserait davantage.
C'est ça. C'est parce que ils sont. La dispense a été remise.
D'accord.
Et alors qu'elle avait été
supprimée. D'accord.
Et donc, du coup,
elle a été supprimée l'an dernier et remise cette année.
Voilà.
D'accord. Donc c'est pas, il n'y a pas de quoi s'alarmer, il n'y a pas de paupérisation sur les taxes d'habitation.
Non.
Très bien.
Et surtout, c'est que cette année.
Sur les investissements, si on regarde, bon, on a bien vu l'achat du terrain, donc c'est 600 000 euros sur la fonte de Montguillaume. On voit aussi en dépenses nouvelles 450 000 euros pour la Fonds de Montguillaume toujours. Donc on est sur l'opération Fonds de Montguillaume, on est bien à 1 million.
Non, on est sur l'avenue Jean Moulin. On n'est pas sur la Fonds de Montguillaume. On est sur l'avenue Jean Moulin. C'est-à-dire qu'on requalifie l'avenue Jean Moulin qui mènera bien sûr à la Fonds de Montguillaume. On est sur la requalification d'une artère. Quand on a requalifié l'avenue de la route de Montpellier, quand on a requalifié la route de Cavillargues, c'était pas la Fonds de Montguillaume. C'est la dernière artère qui reste à requalifier. Et on a attendu justement l'opération de la Fonds de Montguillaume pour la requalifier.
Ça fait pas. Bon, allez. Ça fait partie de l'ensemble des préconisations pour l'installation de la Fonds de Montguillaume. Cette requalification de la CM fossé qui est nécessaire.
Mais vous irez dire, vu que vous avez l'âme charitable, vous irez voir les riverains de la route de Lunel en leur disant que. Qu'ils fassent une pétition contre la Fonds de Montguillaume et qu'on laisse la route comme elle est. Vous verrez ce qu'ils vous répondront. Ils ne seront pas contents. On a attendu ce moment quand même.
question de logique.
Vous l'emportez.
Je pense que c'est à l'occasion de l'opération Fondamio que ce travail-là est fait. Peut-être que je me trompe. On réglera quand même des problèmes hydrauliques aujourd'hui qui mettent aller habiter rue Thalèse ou tous les lotissements qui sont en dessous. Il va y avoir quand même une sérieuse reprise avec un cas d'euro où vous passerez peut-être debout. Pour justement arriver à améliorer, comme on l'a fait pour l'avenue Grand-Bélandier en 2005-2006, arriver à calibrer pour que les gens ne s'inondent pas, enfin profiter de gros travaux de voirie pour, en dessous, régler les problèmes d'inondation, indépendamment de la fonte de Montguillot.
Combien on va leur prendre à l'agglo par test de pipe au vin pour la nouvelle taxe Gemapi? C'est 5 euros, non?
5 euros sous un T10.
Donc 5 euros d'augmentation.
Ou 6 euros, je ne sais rien.
Oui, donc j'espère bien que l'agglomération va...
5,90 euros.
Va faire des choses. J'espère bien qu'on va tourner le dos.
Je le souhaite aussi. Parce que c'est de l'argent, de toute façon, qui sort pris pour la commune d'agglo, par la commune, par qui ça voudra, le contribuable, c'est lui qui paye.
Oui, on est bien d'accord.
C'est-à-dire, c'est nous.
Oui,
donc si on paye, autant qu'on ait un service.
Vu qu'on a voté la taxe Gemapi, j'espère bien qu'on va...
On va se... De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. La gestion des milieux aquatiques, de par la loi, est choix aux intercommunalités. Bon, enfin, c'est tout en fait.
Okay. Sur, alors, par contre, cette année, donc, évidemment, on est très heureux de revoir 5 000 euros, qui est vachement mieux que les 80 000 euros, sur le jardin du Bosquet. C'est vachement mieux. Mais si on mettait 5 000 euros et qu'en plus on le fasse vraiment, ça serait le top. Vraiment, on serait dans une amélioration. Mais comme j'ai un engagement.
Vous inviteras à cliquer, ça sera.
Laissez terminer, monsieur Pradé.
Jamais n'arrive à côté part. Sur ces investissements-là, par contre. Ce qu'on peut appeler la passerelle de Carnon, mais enfin, le projet de passerelle terminé, on ne voit pas, on voit zéro. On peut s'inquiéter aussi sur Prévert, sur 2017. Projet au point mort, l'an dernier, on avait mis au BP 665 000, au BS rien, au BP cette année rien, et au BS rien. Donc on a vraiment un projet qui a du mal.
Il arrive, il va démarrer.
Ben, je ne le lis pas là. Je le lis pas là et on n'en lit pas la dynamique sur votre budget. Donc sur ce budget-là, vous nous dites que donc il y a un fonds de roulement et qu'il faut l'utiliser. Donc nos analyses se rapprochent enfin. Vous nous dites qu'il faut avoir une visibilité de 5 ans sur les emprunts et que vous envisagez qu'il faut être en capacité, avoir une capacité de remboursement de 5 ans sur les emprunts, c'est une bonne moyenne. Ça aurait été super si les emprunts avaient été faits en début de mandat. Comme ça, ils n'auraient pas impacté le mandat suivant. C'est-à-dire, quand on a une majorité, on s'assume et on ne décale pas les ardoises.
Monsieur Pradeil, pour avoir un emprunt, il faut qu'il soit affecté. Je ne vais pas faire des emprunts en début de mandat, juste pour faire des emprunts, parce que c'est le début du mandat. Ce serait une gestion catastrophique.
Non, mais si vous voulez, moi, en termes de gestion, des projets... qui, au début du mandat, on nous avait promis qu'il était vachement bien. Si vous allez voir la bâche de l'école Prévert,
ça arrive.
Elle date d'avant le début du mandat. Donc on aurait pu enclencher depuis bien avant. Ça aurait été raisonnable de faire depuis bien avant. Donc là, si vous voulez, on va se retrouver avec... Donc vous allez emprunter l'année prochaine. Et ça va enjamber la fin du mandat, ce qui n'est pas forcément...
Quand on fait un emprunt, il faut qu'il soit affecté et il faut qu'il suive le nombre d'années de l'investissement.
On est d'accord.
Voilà, vous ne pouvez pas... je ne vais pas faire un emprunt en 2017 pour l'îlot Prévert sur 36 mois, sous prétexte que le mandat s'arrête en 2020. Ce n'est pas possible.
Ben, la même.
Les emprunts sur les gros investissements sont outre la durée d'un mandat. On est d'accord, on va se fier aux amortissements, on va se fier au projet, on ne va pas se fier à une durée de mandat.
Non mais on est
d'accord. Et puis, j'allais dire, notre vision, elle est plus loin que le mandat.
Ne prenez pas, M. Pradeil, les finances comme une finalité. Les finances sont un moyen. À partir du moment où le programme politique, le programme sur lequel nous sommes engagés, avance, c'est vrai que parfois, il n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait,
C'est vrai aussi qu'il y a des procédures, il y a ce qu'on appelle le code des collectivités, qui dispose que, avant une fois de désigner l'entreprise, quand on est dans le privé, on fait ça sur un coup de fil, mais parfois ça nous prend 3 mois, des fois ça nous prend 6 mois. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai. Je ne peux pas laisser dire que les services ne font rien. Les finances, finalement, ne sont que le reflet des projets qui sont financés par des moyens qui, en eux-mêmes, ne veulent rien dire. C'est vrai qu'il y a des indicateurs. Les indicateurs préconisent un remboursement de la dette sur un certain nombre d'années pour qu'on voit si on est plutôt bien ou plutôt pas bien. Ce qu'on dit, c'est qu'on est plutôt très bien. Et que même on pourrait même se permettre, dès lors qu'on favorise l'investissement et si on arrive à déclencher des dynamiques dans des secteurs qui concernent la politique de la ville, on ne s'en privera pas. Je pense quand même qu'aujourd'hui, en requalifiant les fonctionnalités de la ville, comme on parle de l'avenue Jean Moulin, la fonctionnalité de la capitainerie à Carnon, ou l'agrément comme le bosquet, ou la vie associative, la proximité comme on le fait à Prévert, on l'a dit, au budget primitif, je vous ai dit, M. Pradeil, nous avons pris un petit peu de retard, on a mûri le projet politique, c'est vrai, j'en prends la responsabilité, maintenant on est en marche. Il y a de la. Il y a des sommes qui sont engagées, qui ne sont pas mandatées. Donc, les actions, le château, il a commencé. Le concours de la capitainerie, qui n'est pas sur le budget commune, rassure ceux qui auraient peur. Et on termine la phase de concours où les trois cabinets d'archi ont été retenus. Bon, la faune de Moguio, ça y est, on va attaquer des travaux de voirie très importants qui bénéficieront aux riverains avant qu'il ait quelques désagréments, si tant est que ce soit des désagréments, d'avoir des voisins à la faune de Moguio. Bon, il y a quand même des choses qui avancent sur de grosses opérations. Ce ne sont pas de petites opérations. Et Prévert, on commence avant la fin de l'année, avec une procédure qui a pris du retard, c'est vrai. Il y a eu un cas d'euro qu'il a fallu conforter, ainsi de suite. On a même rajouté de l'argent, parce qu'on était parti d'un projet où on n'avait peut-être pas une enveloppe aussi importante. Souvenez-vous, on n'avait affermi qu'une tranche au début, on a fermé la deuxième tranche. On l'a engagé, ça veut dire qu'on a inscrit les sommes. Et c'est vrai que ces sommes, aujourd'hui, elles ne sont pas consommées. Je vous en donne le kit. Oui, c'est vrai. Mais elles sont engagées, on est quand même dans le tunnel. Et si j'ai bien une envie avant la fin du mandat, c'est quand même qu'on puisse ensemble inaugurer des endroits où les gens se retrouvent ailleurs que dans une salle de conseil municipal. J'ai cité la maison des associations. Voilà, c'est tout. Alors la finance, ne faites pas une fixation sur 26 et 28, on est d'accord, 26 et 28, oui, d'accord. Et puis quoi? Après, ce qui compte, c'est que les projets avancent. Voilà.
Alors, d'abord, pour établir quelque chose, vous avez évoqué les fonctionnaires et leur efficience. Vous êtes le seul à avoir abordé ça. Je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il n'y a personne qui a parlé de fonctionnaires dans le tour de table. Après, vous avez dit que vous preniez sur vous le fait qu'il y avait eu, que c'était votre responsabilité, quelques décalages, oui. Que vous étiez. Donc, nous sommes entièrement d'accord sur votre analyse.
Je dis au budget primitif, je n'ai pas l'habitude de me dérober. Hein? Maintenant, on est en route. C'est ça, ben, c'est le PPI, on va arriver au bon sommet. Monsieur Capelletti, excusez-moi.
Oui, alors c'est connecté au budget. J'avais juste une question à poser à Laurent Tricouard. Donc, le temps de travail des agents va passer à 1607 heures par an, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et il était de combien? C'est-à-dire, en combien on va gagner en delta par agent d'heure?
En gros, on gagne 7 jours par an et par agent.
7 jours par an et par agent.
49
heures par agent.
Voilà, si vous voulez plus faire, c'est
par an, c'est ça?
Oui, oui.
49. Il y a 300 agents, c'est ça?
Un petit peu plus. 325.
Donc ça, voilà. Donc ça fait 15 emplois, c'est-à-dire ça fait 675 000 euros de création, de production de services publics supplémentaires qu'on peut faire, donc, si elles sont correctement faites, à la place de heures supplémentaires payées, sous-traitance contractuelle supplémentaire. Donc, compte tenu de ce que je vois, bon, je ne veux pas vous étonner, de toute façon, systématiquement, je m'abstiens pour deux raisons. Et Caroline Favier. Je vieillis sacrément. Et donc, Caroline Favier le sait, comme Madame Lorette le savait. La première, c'est, vous en avez, nous en avons ici sous la semelle, pour le fonds de roulement, qui est très bon, compte tenu de ces 600 à 700 000 euros de productivité supplémentaire qu'on va avoir, non pas le consacrer entièrement à de l'investissement, mais en mettre une partie pour, et la bonne gestion complète, c'est ça, c'est de l'investissement et de la consommation, c'est-à-dire de la baisse d'impôts. Après, on peut, au niveau de la politique, de la conception qu'on se fait d'une mairie, on peut tout à fait être en désaccord hein, sur le fait que non, une mairie n'est pas là pour favoriser la consommation ou uniquement l'investissement. Bon, c'est pas mon point de vue, parce qu'on s'est déjà expliqué là-dessus, l'avenir c'est bien, le présent c'est très bien aussi. Vous voyez ? Donc, moi, la bonne gestion n'est pas un but, le budget n'est pas un but, le but c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a de la place pour activer la consommation localement par une baisse d'impôts, ce qui en plus rendrait Moggio complètement exemplaire dans le landerneau local et pourrait intéresser les autorités qui cherchent des pactes gagnant-gagnant avec des collectivités. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qui fait que je m'abstiens, c'est, ben vous le savez aussi, donc c'est il y a quelque chose à travailler. Enfin, j'avais déjà posé une question là-dessus sur les critères d'attribution des subventions aux associations. Je pense que oui, peut-être que le club de rugby, effectivement. Bon, je pense que il y a des critères plus explicites de dynamisme, tenant compte du dynamisme associatif, du nombre d'adhérents, du rayonnement, je pense à mieux formaliser hein, pour un peu rassurer les présidents d'associations et qu'il n'y ait pas l'impression qu'ils se font les uns avoir, les autres pas avoir. Je pense que c'est deux points importants qui rendent le budget. Voilà.
Alors,
non, vas-y.
Juste pour la partie la plus technique, pour moi, au niveau des impôts, après les associations, peut-être que M. Albert répondra, mais au niveau des impôts, quand on reprend le schéma que j'ai présenté sur le respect des ratios et notamment l'effet ciseaux, j'aimerais sincèrement, enfin, et je pense que nous aimerions, l'équipe, pouvoir annoncer une baisse d'impôts, même si Moggio Carnon reste extrêmement bien placé par rapport aux communes aux alentours et surtout de même strate. On est très très bien situé par rapport aux impôts locaux, c'est-à-dire qu'on a les impôts les plus bas des communes environnantes. Quand on regarde l'effet ciseau, moi ce que je crains, une fois de plus, je suis tout à fait ouverte à même pas à l'échange, plus qu'à l'échange, c'est-à-dire vraiment au travail dessus, sur comment y arriver, est-ce que c'est possible, mais je crains vraiment cet effet ciseau. Quand je vois la façon dont nos recettes diminuent, et combien certaines dépenses sur lesquelles on peut plus jouer. Quand on, là, au niveau des charges du personnel, un travail énorme a été fait. Je ne vois pas, encore une fois, je suis preneuse d'idées, mais je ne vois pas maintenant sur quel point, au niveau des dépenses, on peut agir. Quand on a de moins en moins de dotations, quand on a des dépenses qui arrivent, des nouvelles dépenses, le FPIC qui augmente, comment on va pouvoir financer tout ça ? Plus nos projets ambitieux, parce qu'une ville sur laquelle il n'y aurait plus d'investissement, c'est une commune qui meurt. Comment on peut arriver, sans augmenter les impôts, et pire que ça, en les diminuant, à maintenir cet équilibre-là ? Une fois de plus, moi je suis preneuse,
oui,
la première
on va pas, on
à...
Va pas, on ne va pas faire un long travail ici, mais l'argument est le suivant. Vous avez démontré qu'à travers votre gestion, l'effet ciseau était maîtrisé. D'accord ? Mais pour dire ça, vous ne tenez pas compte de 700 000 euros de productivité supplémentaire. Moi, ce que je dis simplement, c'est ne soyons pas timides sur ces 700 000 euros, ayons confiance, utilisons-en une partie, je ne sais pas, pour rendre du pouvoir d'achat local.
Vous considérez que ça fait 700 000 euros, M. Castelletti, ça fait...
Si c'est bien travaillé, hein, évidemment.
Là, ça fait 46 000 euros et quelques par personne. Si on divise 700 000 par les 15, ça fait beaucoup. Je rappelle quand même, dans une vision plus large, que depuis 2006, on a augmenté les impôts une fois de 5% en 2015. Avec quand même des moments difficiles, ils ne sont pas terminés. Je pense que, en considérant les villes de la même strate, dans une situation identique, ben, vous irez chercher les communes qui ont fait mieux que nous. Je pense que, en la matière, il y a eu quand même un bon équilibre pour maintenir l'investissement, faire travailler les entreprises, déléguer le moins possible le service public au service privé qui est quand même, on a recentré quand même certaines tâches du service public, et dans le même temps, on a fait des efforts et des réussites de productivité, de mutualisation, au sein de la commune, certaines fois avec la communauté d'Aglo sur certains services, des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien, mais dans l'ensemble ça marche plutôt bien. Donc je pense quand même que on peut se montrer toujours exigeant, il faut être exigeant. L'exigence est une qualité. La médiocrité, non merci. Je pense quand même qu'on peut avoir la tête haute par rapport à ce qui se fait. Et la prudence nous a souvent amené à ne pas emprunter, comme beaucoup de personnes nous y incitaient. On a essayé chaque fois de financer avec de l'autofinancement, en préservant aussi le patrimoine. Parfois, il nous est arrivé d'en vendre un petit peu pour réaliser une opération l'année où on avait vendu les terrains où il y a l'opération Patio de Carmen pour faire la MJC, parce qu'on n'a pas 7 millions, on ne trouve pas ça sous les sabots d'un taureau. Je pense quand même que dans une vision plus large, dans la pluriannualité, puisqu'on est dans le PPI, dans le PPI, on regarde devant, mais je vous invite à regarder un coup dans le rétroviseur. Je pense quand même que c'est une gestion peut-être parfois prudente, mais en tout cas sereine. Et l'administré, quand il voit arriver les feuilles d'impôt, il ne se dit pas, ils vont encore marronner, excusez-moi l'expression. Bon, je pense que là-dessus, bien sûr, nous avons pris l'augmentation des bases, comme tout le monde les prend chaque année, mais on a toujours essayé d'être dans la mesure, toujours de trouver le compromis. Bon, c'est notre vision des choses. Vous nous dites qu'on peut mieux faire. Nous pensons toujours qu'on peut mieux faire, que c'est comme l'autre est avant, moins qu'hier et plus qu'hier et moins que demain, mais on va essayer de faire mieux. Mais je pense quand même que cette prudence, elle parle, le schéma parle quand même. Hein. On n'est pas dans une situation quand même où les courbes sont divergentes. Ça tend un peu à se rapprocher. Et il y a deux ans, trois ans, Danick Laurent, à cette même place, elle était assez alarmiste. Bon, on n'a pas une magicienne qui en a remplacé une autre, mais on est resté dans un cadre de prudence et également d'économie. J'ai parlé de fonctionnaires tout à l'heure, c'est vrai. Bon, les élus, on a demandé à l'administration de générer deux fois 500 000 euros d'économie. Parfois, c'était dur. Il y a eu de la souffrance. C'est plus difficile de faire certaines choses qu'en effectif réduit. Mais aujourd'hui, j'allais dire que l'annualisation du temps de travail et surtout la satisfaction des 1607 heures, tout en redonnant la dignité à chacun, chacun ne se sentant pas indigne parce qu'il lui manquait quelques heures, mais en redonnant quand même la dignité, la conformité par rapport au statut, permettra, je l'espère, d'avoir des gains de productivité et de rendre encore de meilleurs services. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait l'analyse de baisser les impôts par rapport à ça. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que la loi de finances qui va être votée prochainement nous rassure sur le devenir des recettes sur lesquelles nous comptions aujourd'hui et qui sont demain, vous le savez, à propos de la taxe habitation, des recettes incertaines. J'espère que nous aurons une compensation, mais que ça ne se fasse pas comme ça s'est fait quand l'État a confié la gestion du RSA au département, à taux fixe, avec une compensation fixe, j'espère que ça suivra. Après, moi je respecte les appréciations des uns et des autres. pour finir, je réponds aussi à M. Pradet, il y a celui des 420 000 euros. La loi SRU, bien dégourdie, celui qui aurait été, même je pense à tous les maires que j'ai connus, même moi je n'ai pas connu M. Meunier, mais je remonte à Théolus. Bon, est-ce que ces personnes-là ont pensé qu'un jour il faudrait qu'on ait 30-25% de logements sociaux? Est-ce que même ce jour-là, quand ils ont pris un mandat, du début du mandat à la fin du mandat, les maires qui se sont succédés, pensez-vous que chacun ait été en capacité de répondre à cette exigence par rapport à la critique que vous avez formulée en disant qu'il aurait fallu s'en apercevoir plus tôt? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le tournant des naïfs, c'est décisif, on n'y arrivera jamais, mais on tend quand même à s'améliorer. Et dans l'exercice budgétaire, ces 420 000 euros, on ne les retrouvera pas ni l'an prochain, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, puisque nous sommes sortis de la zone de turbulence. La préfecture nous a adressé un courrier pour nous dire que la commune centre, bon, on n'était plus dans ces communes champignons, des communes, il y a un autre nom qui m'échappe.
Oui. Boombers.
Pardon ?
Boombers.
Boombers. Non, mais on a un terme en langue. C'est pas grave, on le retrouvera. Mais il y avait un autre terme.
Commune
isolée, voilà. On était 15 en France, 7 ou 15, je ne me rappelle pas. Et on était dedans, voilà. Donc quand même, ça explique, sur les 800 000 euros qu'on a dû rajouter, bon, il y a eu 50 000 euros pour le FIP, je ne sais pas combien, on aura quand même 420 000 euros de moins. Nous attendons quand même la décision de M. le Préfet sur la soustraction. On a demandé, au regard des efforts que nous avions faits, si l'amende pour carence ne pouvait pas être un peu diminuée. On n'a pas la décision définitive. Et si cette somme apparaît au budget supplémentaire, c'est qu'au budget primitif, ne sachant pas de combien elle serait, on a dit, on l'accréditera, on l'abonnera au budget supplémentaire. Donc, quelque part, ce n'est pas vraiment une dépense, j'allais dire, inattendue. Enfin, elle n'était pas espérée non plus. Enfin, on savait qu'on aurait payé. Voilà. M. Bourgui, la dernière intervention.
Oui, c'est une intervention qui sort un tout petit peu du sujet. Parce qu'on évoquait le sujet de la taxe d'habitation. Et bon, c'est vrai que c'est inquiétant tout ce qu'on entend, et comme vous avez soutenu publiquement notre représentant local au gouvernement, ceux qui font les lois, est-ce que vous êtes rapproché de notre député pour en discuter avec lui? Voilà, c'était ça ma question. Oui, parce que moi, de ce que j'ai entendu, ils disent que pour les communes comme la nôtre qui ne sont pas en difficulté, ça sera plus dur que pour d'autres communes. Ils vont faire une péréquation, et donc les communes qui considèrent aisées, ils vont leur mettre des gros coups de ciseaux.
Écoutez, nous travaillons avec notre député, je vous rassure, M. Bourguet, et dès que possible, je vous donnerai les renseignements, on travaillera de concert là-dessus. C'est une décision qui nous concerne tous. Hein, on est d'accord? Voilà, donc, écoutez, après ces échanges, je vous propose... Non. Jean, tu veux la parole? Allez, rapidement.
Je vais répondre à M. Capelletti.
Mais ça n'ouvre pas notre débat. Hein. C'est les réponses, c'est fini.
Oui, non, M. Capelletti, pour répondre un peu à votre intervention, ça ne veut pas que vous intervenez là-dessus. Je pense que vous parlez dans du tennis. Un peu quand même, pas ça. Sachez quand même que c'est un club.
Je ne fais pas que du tennis. Hein.
Du tir.
De la pétanque aussi. De lui demander.
Bon, simplement pour vous dire quand même que les clubs de Montjoie n'ont pas ce peine, hein. Même le tennis, on a quand même mis de l'argent. Hein.
J'ai demandé des critères transparents d'attribution des subventions.
Je fais la synthèse.
Qui se plaignent.
Alors, ça, c'est l'objet d'un débat.
Si vous parlez de ça, c'est que...
Monsieur Albert, alors, on est en dehors du sujet. Monsieur Albert, au nom de l'équipe municipale, fait pour le mieux au niveau des subventions, des associations. Il y a peut-être des choses qui sont pas du goût de tout le monde. Pour le moment, on attribue quand même 550 000 euros, 600 000 euros. C'est pas parce qu'il y a une grosse somme que c'est bien. Mais enfin, je pense que les associations sont plutôt bien traitées. Ça sera peut-être l'objet de notre débat. Mais là-dessus, on tombe dans des...
J'ai pas dit le contraire. Hein.
Merci.
Je dis pas qu'elles sont mal traitées.
Parfait. On restera sur cette bonne impression. Je vous propose de passer au vote du budget supplémentaire. Avant que Madame Favier ne vous... Vas-y, Caroline.
Oui, juste pour vous dire que avec le vote du BS, il y a donc, à la suite d'une dissolution du syndicat intercommunal de dérivation des eaux de crue du Vidourle, En août 2000, il faut qu'on réintègre 30,49 € qui doit être porté dans la section d'investissement. Voilà, ça fait partie de la délibération. Il fallait que je le cite.
Merci, c'est fait. Alors, qui est contre la proposition qui est faite par Madame Favier ? Qui s'abstient ? Pour ? Je vous remercie. Même opération pour le port de Carnon, Madame.
Allez, même opération pour le budget supplémentaire de Carnon. Donc, je ne vous redonne pas la définition, c'est la même que pour celle de la commune. Donc, au niveau de la section d'exploitation, nous avons plus 515 047 €. Au niveau des recettes, alors, évidemment, principalement l'affectation de l'excédent de l'exercice 2016 à hauteur de 402 000 €. Vente de prestations qui ont ajouté 28 168 €. Et enfin, sur le compte 77, un excédent de 84 385 €. Généré par un remboursement fiscal de l'IS de 2016 à hauteur de 80 780 €. Au niveau des dépenses, toujours dans la section d'exploitation, donc des charges à caractère général qui ont été affinées et du coup minorées de 7 241 €. Au niveau des charges de personnel et frais assimilés, on a un ajout de 32 741 €. Là, c'est dû à un employé qui a été absent et sur du long terme, et donc un remplacement. Ensuite, au niveau des charges exceptionnelles sur les dépenses, il est porté au compte une nouvelle provision de 200 000 € au titre de 2017. Pour les opérations de dragage à venir. Donc c'est une provision qui est faite pour les futurs travaux et pour l'instant la provision est sur un montant total de 842 000 €. Au niveau des dépenses après imprévus, c'est insignifiant à hauteur du budget, 8 354 €. Et enfin, il y a eu un virement à la section d'investissement de 220 000 € résultant de l'excédent qui a pu être dégagé sur l'exercice et qui servira à une provision pour le programme de la capitainerie. Au niveau de la section d'investissement, donc 417 071 €, en recette, il y a l'excédent d'exploitation, toujours 2016, 206 671 €. Le virement des 220 000 € de la section d'exploitation évoquée précédemment. Au niveau des dépenses, une provision complémentaire de 20 000 € qui va permettre un équipement tout simplement pour équiper les bornes du quai en poste d'électricité pour différencier, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de plaisanciers qui laissaient tout en fonction, même en étant absents. Et ensuite, on a une intégration de 441 562 € permettant de contribuer au financement du programme de réhabilitation de la capitainerie. Donc il y a les 206 671 € d'excédent d'investissement reporté de 2016 et l'excédent dégagé, le fameux virement des 220 000 € dont je vous ai parlé. Voilà, je n'ai rien de plus.
Merci. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons comme projet la réfection, la réhabilitation de la capitainerie, la reconstruction de la capitainerie, comme projet positif et comme projet négatif, préoccupant, c'est le dragage. Je dois voir Monsieur le Préfet très prochainement pour justement voir comment les sédiments peuvent être déposés avec un budget de 2,2 millions. On nous annonce un dragage de plus de 4 millions s'il fallait déposer les boues. Or, voilà. Alors, le porté à connaissance du nouveau PPRI montre qu'il y a des possibilités sur les endroits où on avait les casiers, sur le triangle. On verra si l'autorité préfectorale acceptera une nouvelle fois qu'on puisse déposer les sédiments pour les essuyer. Voilà, en sachant que ce ne sont pas des métallos, même comme Rano. Résuyage, excusez-moi.
Mais il y a aussi une autre possibilité de les traiter, et qui n'est pas traitée dans le PAPI et le GEMAPI, c'est-à-dire reprendre le canal du Gros, puisque le Gros est bouché par plusieurs éléments, et le plus préoccupant, c'est le fameux barrage anti-sel. Or, le plan de prévention pour les inondations a repoussé cette amélioration au fait que il y aurait peu de gens qui seraient moins inondés, ou tout au moins ils seraient inondés moins de temps. Or, on ne peut pas traiter les problèmes hydrauliques tant qu'on n'a pas traité l'aval. Et l'aval de tout le bassin de l'Or, eh bien, c'est le Gros de Carnon. Et le Gros de Carnon, comme au niveau des portes, il y a un quart du débit simplement qui peut passer, ça veut dire que dès que l'eau est sortie de cet espace, bien sûr, l'eau se repose et repose les sédiments. Si on améliore le débit de sortie de l'étang de l'Or vers la mer, c'est sûr que le courant passera directement à travers le port et pourra renvoyer les alluvions en mer directement. Et on n'aura pas ce coût énorme
Madame Cromarlos,
dragage.
On vous a écouté attentivement, mais on est là sur l'exercice budgétaire avec des explications qui relèvent de notre contexte. Et il est évident que si on pouvait éviter l'embasement, on n'aurait pas besoin d'enlever les sédiments.
Et c'est ce que je dis dans d'autres instances, j'aurais besoin du soutien du maire de Mobio.
Voilà. Mais écoutez, il est tout acquis pour essayer de trouver les bonnes solutions. Voilà. Maintenant, par rapport au budget, je vous demande, s'il n'y a pas de commentaires...
J'ai une autre question. Le parking payant de Carnon Ouest...
Non, madame. Là,
Il est sur une zone qui est gérée par le port. Je voulais savoir si la gestion de ce parking payant est de la compétence du port ou c'est de la compétence de la mairie.
Communale, madame. Communale.
D'accord, merci.
Communale. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant, qui est la délibération numéro 6, provision pour risque.
La 5. Hein. Provision pour risque.
Allez, trop vite.
Bon, reprise des provisions. Alors, d'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, je vais faire la 5, la 7 et la 6, parce que c'est beaucoup plus cohérent, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, la délibération numéro 5, c'est tout simplement le 3 octobre 2016, une provision semi-budgétaire pour créances douteuses a été constituée, d'un montant de 82 000 euros. Le 14 novembre 2016, cette provision a été levée pour un montant de 7 000 euros. Le solde pour provision s'élevait donc à 75 000 euros. Et donc le trésorier principal de Mobio, sur les admissions en non-valeur, c'est-à-dire les créances qu'on ne peut pas récupérer, il convient de reprendre cette provision pour un montant de 6 500 euros. Donc, la délibération, c'est, je vous la donne. Monsieur le maire propose aux membres du conseil d'adopter la reprise sur provision citée ci-dessus.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc, si vous voulez bien, on passe à la délibération numéro 7 dans l'ordre, puisqu'à suite...
C'est la 6.
Ah, ça vous ennuie? Bon, tant pis. C'est plus logique de faire la 7 avant, mais... Donc, projet délibération numéro 6, provision pour risque, abondement de la provision pour créances douteuses. Donc il s'agit là de reconstituer les provisions au regard des indications du Trésor, c'est-à-dire après qu'on ait annulé celle de la délibération suivante.
On vote contre, abstention, je vous remercie.
Donc, la délibération numéro 7, le comptable public de la commune de Mobio a dressé les états des produits qui ne sont pas recouvrables au budget principal pour les années 2009 à 2016. Et donc, vous avez la liste qui a été jointe. Et la créance admise en non-valeur est de 6 482,61 €. C'est pour ça qu'on vous a demandé avant de compléter. Voilà.
Pas de questions ? Par ce vote ? Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Christian ? Point numéro 8. Mandat spécial aux élus, déplacement à Beauvais. Il s'agit de votre personne, monsieur Clavery.
Comme chaque année pour le 19 septembre, nous nous rendons à Beauvais pour commémorer les massacres nazis de la ville et les incendies de la ville en partie. Nous nous sommes rendus cette année avec monsieur le maire et puis monsieur le curé, qui n'est pas concerné par. Voilà, donc les frais pris en. Alors, monsieur le maire, il faut autoriser monsieur le remboursement des frais engagés pour l'exécution de cette mission. Et le remboursement des frais, ce sera sur la base des frais réels. Les crédits sont inscrits au budget de la commune. Bien. Enfin, ça représente un montant de 250 €.
On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Proposition, déplacement voici du 20 au 22 octobre dans le cadre des relations que nous avons dans le cadre du Point Europe, et nous avons reçu le maire de Stubic et Toplis et de Croatie pour la Romerie. Donc dans le cadre des protocoles d'amitié, il n'est pas question aujourd'hui d'envisager autre chose pour le moment. Donc si vous m'en accordez la permission, j'irai le vendredi 20, partir le vendredi 20, reviendrai le dimanche 22 à Stubic et Toplis pour une journée consacrée à une manifestation à laquelle je suis attendu. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le congrès des maires suivra donc du 21 au 23 novembre. Moi, j'espère qu'il sera riche en enseignements. Et donc, l'année dernière, nous n'étions pas allés au congrès. Toi, tu étais allé, Christian Clavery avait représenté la commune au mois de mai. Il y avait une annulation en fonction des événements au mois de novembre. Donc, aujourd'hui, la commune sera représentée au congrès des maires, outre moi-même, Caroline Favier, Laurence Gély et Laurent Tricoire. D'accord. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, je vous propose d'intégrer cette proposition. Contre, abstention. Je vous remercie. Ensuite, le point numéro 11. Pays de l'eau agglomération, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est un rapport qui est en fait porté à connaissance, qui donc justifie ce budget qui, comme vous le savez, est un budget autonome, et qui permet de savoir quel genre d'investissements sont faits, lesquels investissements, notamment les extensions de réseau, avec les diverses taxes qui sont ensuite redistribuées par l'agence de l'eau, alimentent les projets communs. Donc je vous fais grâce des lectures de ces dispositions. Je me permettrai de vous dire, de souligner l'effort que notre commune a fait en matière de préservation des ressources en eau, en dehors des classiques protections de captage. Je dirais qu'il y a eu des actions qui se sont traduites au niveau des espaces verts par la rénovation des réseaux d'arrosage, notamment sur Carnot, avec trois grosses tranches, 2012, 2013, 2014. La charte paysagère, avec des jardins secs, des plantes méditerranéennes, qui nécessitent moins d'arrosage par aspersion. Nous avons réduit également les plages d'arrosage. Nous avons bien sûr adhéré au programme d'amélioration pratique phytosanitaire. Au niveau des bâtiments, il y a eu lors des rénovations de bâtiments tels que la MJC l'ancienne et la nouvelle, des procédés d'économie d'eau. De l'école Camus à la nouvelle école unité de Camus également, on a eu des réductions, avec également des réductions significatives au niveau des plages, les douches, le poste de secours, et aussi, je le dis, les consignes données aux usagers qui ont été parfois un peu mieux suivies. J'englobe les usagers également, qui sont des personnes responsables, il y en a, heureusement, qui fait que nous avons eu, entre 2009 et 2016, nous avons eu une diminution de 62% des consommations. On avait, pour vous donner un chiffre, on culminait à 187 000 mètres cubes en 2009, on est passé à 71 000 mètres cubes en 2016. Bon, je salue ces économies qui sont significatives, on ne pourra pas continuer à les faire comme ça, parce qu'à un moment donné... Mais je félicite les services, François Borel et toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus, Justine Michaud, la dame qui est en charge de la... comment on appelle ça, la personne affectée au développement durable. Voilà. Bon. J'essaie de trouver le terme, mais je ne l'ai pas trouvé. À l'époque, Alain Foucaram avait, dans une mandature précédente, avec Aimé Chevalier, initié ce travail. Et Marie Leveau avait travaillé sur la charte paysagère. Et il y avait une mission qui avait été confiée à une de tes collègues, Marie, ce qui nous avait permis d'initier une réflexion forte de sens. Garder l'embellissement, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'a pas été gâché, c'est qu'on est petit à petit, bon, de rien, on a eu deux fleurs, bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. Bon, de rien, on va avoir, on a eu le grenouille, on en aura peut-être une autre par rapport aux produits phytosanitaires. Donc, ce que je dis, c'est qu'on est arrivé, en conservant un agrément, même en l'améliorant, on est arrivé à mieux gérer la ressource en eau, en dépensant moins, on est arrivé à faire mieux. Bon, tout ça, ça va, c'est pas moi tout seul. C'est toute une équipe et c'est également les usagers qui suivent les préconisations. Je ne doute pas que également le travail qui est fait dans les écoles porte ses fruits. À supposer que quand les gens reçoivent les factures, ils n'aient pas le réflexe de dire on va quand même faire un peu plus attention. Voilà. Voilà. Donc une année de sécheresse comme cette année nous amène à des pratiques beaucoup plus correctes envers l'environnement. Voilà donc je n'irai pas plus loin dans mon commentaire. Donc, il s'agit de prendre acte de ce porté à connaissance qui a été adopté le 28 juillet 2017 lors du Conseil d'agglomération. Voilà. Donc, je suis ravi que les compétences que nous avons confiées trouvent également une traduction dans les compétences communales. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent et parfois elles se superposent. C'est très bien. Quand il s'agit du bon sens. Voilà. Donc, je ne demande rien. On passe au projet de délibération numéro 12. Il s'agit de la Poste, Bernard, avec un avenant au contrat de déploiement du code postal.
Oui. Alors, effectivement, donc vous savez que nous avons un contrat avec la Poste en ce qui concerne le changement du code postal de Carnon. Nous avions adopté en conseil municipal du 6 mars 2017, approuvé cette convention avec la Poste. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en retard, la Poste et nous, enfin, il y a eu des contraintes qui ont fait que nous ne pourrons pas effectivement réaliser dans les temps prévus, c'est-à-dire avant le 30 novembre, toutes les opérations. Donc nous vous demandons simplement de prolonger l'avenant jusqu'en juin 2018 afin de permettre à la Poste et à nos services de réaliser cette opération de changement de code postal.
Très bien. Question, on passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Continue Bernard.
Alors, là, on va parler de l'approbation du bilan de la concertation préalable à la réduction du périmètre de la ZAC de Lafond. Par délibération du 19 décembre 2016, il avait été décidé d'une part de réduire le périmètre de la ZAC de Lafond de Moguio de 31 hectares à 19 hectares afin de prendre en compte le futur PPRI, et d'autre part d'ouvrir une concertation associant les habitants et les associations locales et toute personne concernée. Cette consultation, qui était menée au titre du Code de l'urbanisme, dont le bilan est joint d'ailleurs à l'ordre du jour, s'est déroulé de mars à septembre 2017 et n'a pas apporté d'éléments remettant le projet en cause. Le processus doit se poursuivre par une nouvelle procédure au titre maintenant du Code de l'environnement. Tout à l'heure, c'était le Code de l'urbanisme. Là, c'est au titre du Code de l'environnement. Une nouvelle procédure de participation du public par voie électronique, dont les modalités ont été fixées par le décret 2017-26 du 25 avril 2017, qui rend caduque notre délibération du 15 mai 2017, qui, elle, était basée sur l'ancienne procédure. En fait, il y a eu un changement de procédure. Il convient donc, d'une part, d'annuler cette délibération du 15 mai 2017, et d'autre part, de prendre une nouvelle délibération approuvant les nouvelles modalités de participation du public par voie électronique au titre du Code de l'environnement. Et bien sûr, d'approuver le bilan de la concertation qui était joint à l'ordre du jour.
Voilà, en fait, on a la semaine dernière adopté la même délibération en communauté d'agglomération par rapport au distinguo que l'on fait entre concertation et participation. Voilà. Donc c'est une procédure habituelle, M. Bourguet.
Non, mais je ne vais pas vous refaire mon couplet sur la fonte de Mouguion, mais je vais vous épargner votre temps. Donc je voterai contre parce que moi je suis toujours opposé à ce projet et contrairement à ce que vous dites, je ne me suis pas fait le défenseur des propriétaires pour qu'ils vendent plus cher. Moi, mon combat, c'était pour que ces terrains-là ne soient pas construits un jour. Voilà. Je voulais juste vous rappeler cela.
Très bien, vous l'avez fait, c'est bien.
Donc vous votez contre la concertation, monsieur.
Voilà, vous votez.
Oui, je vote contre la concertation parce que je vote contre la ZAC.
C'est une opposition. Mais...
Je vous rappelle que vous avez voté la même délibération au Conseil d'agglomération la semaine dernière.
Celle-là ?
Alors ?
Oui.
Je ne pense pas.
Elle a été votée à l'unanimité.
Non, elle n'est pas passée au Conseil d'agglomération. Non, non, mais elle n'était pas là du jour.
Si, monsieur.
Même ?
Si,
monsieur. Mais on regardera.
Et vous regarderez.
Non, non, il n'y avait que celle de des portes de l'aéroport.
Non.
Non, mais oui, je regarderai. Mais de toute façon, c'est pas possible que j'ai voté.
Oh. Monsieur Prenet.
Pour revenir sur la concertation, moi je suis passé à Morastel, où on nous a bien précisé que l'échange faisait partie de la concertation. J'ai fait un rapide produit en croix. Pour savoir quelle était la part de logements sociaux sur la première tranche, on est à 19%, on n'est pas à 30%. Bon, j'étais très ouvert en disant essayez de bouger, si ça bouge c'est important, changez peut-être d'assiette de la première tranche. On n'a pas réussi dans la concertation du conseil municipal. À se rapprocher les uns des autres. Je pense que vous avez une vision, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas vous en tenir à 30% de logements sociaux, alors que vous demandez à toutes les opérations privées sur la commune de faire 30% de logements sociaux, que c'est quelque chose qu'on a voté à l'unanimité, qui est écrit dans le PLH. Et donc, par rapport à ça, vous ne vous y tenez pas. Je finis par penser que c'est une politique... que vous envisagez depuis longtemps, qui est cohérente, qui vous dites c'est pas ma faute, la loi SRU, vous vous rendez compte, l'amende je savais pas et tout, vous me disiez tout à l'heure monsieur le maire, moi je pense que vous saviez très bien, je vous redis que vous êtes positionné avant les élections en disant que vous préfériez payer l'amende plutôt, monsieur Cassard, je me suis trompé, c'était pas décembre, hein. C'était janvier. La tribune, où vous avez écrit ça. Donc, la tribune de janvier, juste avant les élections. Donc, vous avez une politique constante et cohérente où vous freinez sur le logement social. Moi, je ne sais pas, les gens, la question du prix, le prix d'accession des produits que vous avez proposés à Front de Mouguion, est quand même très surprenante. Donc, on veut bien que vous consultiez. Le fait est que, par rapport aux élus qui sont dans le tour de table du conseil municipal,
vous passez renforcé sans avoir bougé une virgule de votre position de départ. Donc c'est pour que ce soit bien clair, moi j'ai pas voté, je siège pas à l'aglo, mais et c'est peut-être pas.
J'ai l'ordre du jour là.
Mais pour que ce soit bien clair, moi c'est pour des raisons politiques et pas pour des raisons où je suis pour les consultations quelles qu'elles soient. Vous comprenez bien que quand on consulte si peu l'ensemble du conseil municipal, je ne peux pas faire comme si j'étais ravi que les autres consultations légales se fassent. Donc là-dessus, nous aurions pu nous rapprocher, je crois que nous nous éloignons.
Alors, Monsieur Pradeille, oui, vous tenez des propos qui n'engagent que vous, en disant que nous sommes contre la volonté du logement social et contre les objectifs de 30%. La Fonde Mouguio, dans la globalité de son opération, répondra à ces exigences. À l'image de Chris Froome, quand il fait le contre-la-montre, même si à la fin il remporte le Tour de France, il ne démarre pas à la même vitesse que celle à laquelle il termine. C'est-à-dire que l'opération, dans la configuration géographique qui est la sienne, et j'ai encore des discussions à mener avec Stéphane Rossignol, le président de l'agglomération, ses services par rapport à la station de surpression qui est au milieu de la première opération, il y a encore des incertitudes relatives à l'assiette foncière de la première tranche. Et vous savez très bien comme moi, pour en avoir longuement parlé avec Frédéric Sauvé, directrice de la SPL, vous savez très bien comme moi qu'aujourd'hui on ne peut pas, au risque de mettre des opérations qui seraient totalement déséquilibrées et qui ne trouveraient aucun preneur, nous ne pouvons pas mettre la quantité de 30% sur la première tranche. Je le dis, on ne peut pas mettre 30% sur la première tranche. La moyenne de tout sera au niveau de ce qu'on a dit. On ne peut pas, en accord avec le PLH. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. On ne garde pas une grosse voiture dans une petite place. Donc, on ne peut pas. Trouver un opérateur qui accepterait de mettre 50% ou 60% de logement social dans un endroit où l'opération ne s'y prête pas, ça serait totalement ridicule. Donc cette intention que vous nous prêtez, je la dénonce vigoureusement. Après, ce sont vos analyses, comme celles que vous avez faites tout à l'heure dans mes intentions par rapport à la signature que nous allons faire avec le maire de Lunel. Ça vous regarde. Pour quelqu'un qui ne fait pas de la politique, vous vous débrouillez pas trop mal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Non, c'est pas plus mal. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point suivant. Qui est...
D'accord. Et la participation pour l'extension du réseau électrique SCI rue de la Gardiole. Par délibération numéro 14 du 9 février 2015, nous avions approuvé le paiement de la participation au montant des travaux d'extension du réseau électrique d'un montant de 22 069 euros 58. Suite au permis de construire déposé par la SCI, ce permis a été délivré le 6 février 2015. En date du 14 août 2017, RDF a fait une nouvelle proposition dans laquelle la participation au coût des travaux s'élève à 12 898,72 € au lieu des 22 000 prévus. Donc, il convient donc d'annuler la délibération du numéro 14 du 9 février 2015 et d'approuver le paiement des travaux d'un montant de 12 898,72 €. Et également d'autoriser l'émission du titre de recette à l'encontre de la CI rue de la Gardiole.
Madame ?
Juste pour dire que ça fait mauvais effet quand ça arrive dans un ordre du jour, en ce sens que la rue de la Gardiole est à proximité de la rue du Jeu de Boule et de la rue des Quatre Fondateurs, qui sont des rues, la rue du Jeu de Boule qui est face à la mer et qui a un réseau électrique aérien, donc des pannes souvent en période d'intempéries. Donc voir qu'on fait des travaux pour un bâtiment qui est en surplomb de chez ces gens et dont les terrasses sont à 2 mètres de leur clôture. Voilà, ça fait mauvais effet. Je tenais à vous transmettre cette information.
Elle est transmise. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, délibération numéro 15.
Délibération numéro 15, pardon, c'est un avis sur une installation de broyage et concassage d'une station de transit de matériaux située sur le territoire de la commune de Montpellier. Monsieur le maire expose au membre du conseil municipal qu'une consultation publique a eu lieu du 4 au 29 septembre 2017 relative à une installation classée sur le territoire de la commune de Montpellier au lieu dit le Grand Grès, à la demande de la société Bâtir, dont le siège social se situe à Viol-le-Fort dans l'Hérault. Ce site accueille depuis juin 2009 une station de transit de recyclage de matériaux inertes sur un terrain d'une superficie de 17 hectares neufs. La demande concerne une installation de broyage et concassage et une station de transit de ce matériau sur ce même site, localisée en limite est de la commune de Montpellier, à l'intérieur du triangle formé par l'autoroute A9, la RD24 et la RD66, et à moins de 1 km de la commune de Moggio. Vous avez une carte qui a été jointe à l'ordre du jour. Il est impératif pour le voisinage de s'assurer que cette installation ne générera pas de nuisances en termes de bruit et de poussière. Les précisions techniques apportées sur ces aspects dans le dossier ne permettent pas de l'affirmer sans ambiguïté. Aussi, nous demandons à ce que soit apportée une extrême vigilance sur le respect de la réglementation afin de préserver les habitants et l'environnement existant. Et il vous est proposé de donner un avis défavorable au projet d'installation de broyage et concassage d'une station de matériaux par la société Bâtir sous réserve du respect du site et de demander aux pétitionnaires d'apporter toute garantie sur les possibles nuisances évoquées pendant l'exploitation de cette station.
Ben, je me réjouis que les expériences de l'usine d'enrobage ont servi, donc je suis content de cette délibération. Mais voilà, je ne sais pas si on a. Après, on aura un mot à dire en tant que commune, parce qu'il y a quand même des risques de poussière sur les vignobles environnants. Donc, je ne sais pas si on aura un mot à dire, s'il va y avoir des enquêtes publiques, tout ça. Mais je pense qu'il faudra que les services suivent ça de très près, parce que c'est vraiment.
Elle est en cours, l'enquête.
Elle est en cours, voilà. Parce qu'il y a vraiment des risques.
Elle a eu lieu du 4 au 29 septembre. Elle est terminée.
D'accord.
Elle a eu lieu du 4 au 29 septembre. C'est à ce sujet-là qu'on va répondre.
Oui, d'accord. Bon, mais voilà. C'est tout.
Moi, je voulais dire.
Ouais. Et j'ai regardé l'ordre du jour du conseil d'agglo. Et à part la fonte de Montbéliard.
Je regarderai moi aussi.
Il est là, hein, je vais là. Je vais là. C'était les portes de l'aéroport.
C'est les portes.
Ah oui, c'est le même principe. Mais j'ai jamais été contre les portes de l'aéroport du moment qu'on a réduit le périmètre.
C'est exactement le même.
J'étais contre le premier périmètre, mais pas contre le deuxième.
Monsieur Bourguet, chaque fois qu'on redit, vous êtes content.
Ouais. Parce que ça se justifie.
Allez, on passe. Monsieur Capelletti.
Oui, je voudrais. Ça sert à quoi exactement une station de broyage et concassage? Et si elle va pas à Moggio, si elle va pas sur la zone ici, elle va où?
Elle ira sur la zone là. Hein. Nous, on donne un avis défavorable, mais c'est selon le résultat de l'enquête publique. C'est l'enquête publique qui décidera. Si l'enquête publique.
C'est vraiment, on peut dire non et.
On ne donne qu'un avis, nous.
On n'a pas le droit de vie et de mort sur l'opération.
On ne donne qu'un avis qui est inscrit dans l'enquête publique.
Et c'est après, le résultat de l'enquête publique qui décidera. Et ça sert à quoi exactement? Ça fait quoi en fait une station comme ça?
Je ne sais pas ce que c'est.
Ça broie et ça concasse tous les résidus qui sont entreposés sur cet endroit-là.
C'est les gravats, qui sont transformés en gravier.
Voilà.
Faire du gravier et du sable avec les gravats.
C'est un petit peu ce qui s'est passé à la carte coopérative là, où on a reconcassé les pierres.
Ce que nous demandons, c'est que si ça doit se faire, ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Les garanties, on ne les a pas encore. D'après ce qu'on a vu, on n'a pas les garanties que ça ne risque pas de nuire à la Plochude, par exemple, qui n'est pas très loin, même si l'autoroute fait barrière, fait écran. Voilà, c'est tout. Effectivement, je pense que le maire de Montpellier comprend très bien la position de la commune, qui est la position de principe de précaution, et nullement une ingérence dans la politique qu'il mène de vouloir concasser certaines rues.
Voilà. Si quelqu'un veut voir le dossier, j'ai le dossier là.
Voilà. On passe au vote si vous voulez.
Il est à votre disposition.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe.
On a voté pour, on était contre.
Ouais.
On vous demande. Voilà. Alors, projet de délibération numéro 16, monsieur Balsamo.
Dominique, tu nous résumes l'histoire, hein?
C'est par rapport au concours d'architecture pour la capitainerie, c'est l'autorisation de verser 350 euros aux architectes pour participer au jury. Enfin, c'est une indemnisation forfaitaire. Voilà.
C'est tout. Donc on fait remettre de payer le jour du travail. Ça va normal. Allez, on le passe, qui est contre, qui s'abstient. On vous remercie. Monsieur Cravert, Jacques, parlons du Saut du Loup.
Oui, nous allons refaire la rue du Saut du Loup et au même titre, disons que nous avons procédé pour comme l'avenue Jean Moulin, on a besoin, disons, d'assistance de maître d'ouvrage temporaire, car c'est Aéroénergie qui est l'assistance de maître d'ouvrage. Alors, c'est autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. C'est pareil.
Je précise que cette opération, pour ceux qui verraient. Par rapport aux propos qui ont été tenus précédemment, c'est déroulé en parfaite harmonie avec l'agglomération. N'est-ce pas, M. Gravier?
Oui. Ça fait.
Allez, on passe au vote.
Bravo, M.
Félicitations. Oui, la prochaine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le saut du loup. Madame Moulin-Trafort, Patricia, qui va nous parler de l'association Viva City.
Oui, alors l'objet de la délibération aujourd'hui s'attache à se prononcer sur un avenant. La convention avec l'association Viva City. Oui, on a approuvé le 24 janvier 2017 une convention avec cette association qui définissait les conditions dans lesquelles cette dernière est autorisée à occuper à titre précaire et révocable le domaine public pour l'organisation des puces le dimanche matin sur Carnon. Ce dernier est pour date butoir le 10 septembre 2017. Donc nous proposons donc aujourd'hui d'approuver un avenant qui permette l'exploitation du domaine public par cette association jusqu'au 17 décembre 2017.
Une question s'il vous plaît. Pardon, vas-y.
Il y a divers bruits qui courent à Carnon sur l'avenir de cette zone. Donc je voudrais savoir si la municipalité a un projet sur cette zone. Enfin voilà, c'est un peu bizarre.
Un projet concernant les puces ou un autre projet?
Un autre projet sur l'emplacement des puces.
Pour l'instant, on est en train de reconduire, de demander à reconduire un avenant pour les puces. On
oui, mais 3 mois.
Décembre.
Donc 3 mois.
À ce moment-là, nous aurons le résultat de l'étude de tourisme, de l'étude de déplacement. Circulation et déplacement, et ça nous laissera le temps de prendre les décisions, les bonnes décisions. On les menace pas.
Ça rien d'une menace, en sachant que on est en train de voter cet avenant-là, parce qu'à partir du 1er janvier 2018, il y a une autre forme juridique concernant l'octroi du domaine public. Donc pour l'instant. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la raison pour laquelle nous votons jusqu'au 17 décembre 2017, puisqu'à partir du 1er janvier 2018.
Là, c'est une régularisation juridique, on ne prend pas de décision.
Il n'y a pas de
décision plus aujourd'hui. Voilà. Et vous serez bien sûr associé à ce qui se décide en la série.
Ça s'applique, les nouvelles modalités, elles s'appliquent en janvier. Et elles s'appliqueront aussi à cette fois, j'imagine.
Alors pour l'instant on engage une réflexion sur le remodelage de tout ça. Il y a à remodeler, forcément. Donc on est en réflexion sur ces activités, les différentes activités.
Le principe, c'est que toute mise à disposition du domaine public est soumise à la plus grande mise à concurrence.
Transparence et mise à concurrence.
C'est très bien. Voilà. Je vous propose de voter.
Oui, non, mais moi je vais voter contre comme d'habitude parce que je trouve que ces puces, elles auraient dû être en régie et ça fait longtemps que je le demande. Voilà. C'est tout. Après, c'est ce que voulait dire Christine, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs à Carnot sur ce terrain en ce moment. Il y en a qui disent que donc les forains disent qu'ils ne seront plus là. Donc il y en a qui disent que ça va être vendu à des promoteurs, etc. Voilà, c'est ça que voulait dire Christine. Elle voulait savoir ce qu'il y avait de fondé ou pas dans ces rumeurs. C'est tout.
Allez, pour rattraper ce qui manque à la fin de la mondiale. Allez. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Projet de délibération numéro 19, Fatih.
Alors là, c'est la convention de partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une association qui s'adresse aux familles, aux personnes isolées qui sont en rupture sociale, qui ont souvent du mal à avoir accès à la culture ou au sport, de façon générale. C'est une association qui a mis plus de 500 réseaux des relais sociaux locaux. Alors, nous transmettons à ces relais sociaux locaux l'ensemble de nos programmations, de nos manifestations culturelles et sportives qui sont portées par la ville. Et de fait, nous définissons pour chacune d'entre elles systématiquement un quota de 5 à 10 places qui leur sont réservées pour ces personnes-là pour participer à une action sociale reconnue d'intérêt général. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à renouveler la convention de partenariat entre la commune et l'association Culture Sport Solidaire 34.
On se vote contre, abstention. Merci. Rassurez, faites motive, toujours pas timoulé.
C'est pas marteau plume d'abord. D'abord, c'est la convention de partenariat avec l'association Marteau Plume, qui est une association melbourienne qui a pour vocation de faciliter le lien social. En facilitant l'accès à différents types d'activités culturelles, alors le tout de manière économe, solidaire et conviviale. Alors c'est un partenaire, Marteau Plume, qui travaille énormément avec notre médiathèque Gaston Bessette, puisqu'elle y anime des ateliers pour adultes et pour enfants, autour essentiellement de la lecture et des loisirs créatifs. De plus, elle propose à ses adhérents un accès qui est facilité aux manifestations culturelles, en créant, alors c'est dans l'air du temps, une dynamique avec du covoiturage, des moments d'échange après les spectacles, et donc des places de spectacle à prix réduit. Donc l'objet de notre convention d'aujourd'hui est d'établir un accord entre les deux parties, la commune et Marteau Plume, visant à faire bénéficier Marteau Plume de places à tarif réduit sur notre programmation culturelle au théâtre, en réservant au minimum 10 places pour l'accueil des membres. Et en échange, comme Marteau Plume se déploie sur d'autres territoires et d'autres de nombreux théâtres, et bien notre programmation est échangée bien au-delà de nos murs. Voilà.
Bien. Votons. Contre. Abstention. Tout le monde est pour. Merci. Les bracelets.
Alors les bracelets. Alors, les bracelets faites votives, donc la délibération sur le reversement des recettes qui sont relatives à la vente des bracelets passe-fête de l'édition 2017. Alors, tout comme l'année dernière, la ville pour montrer son soutien à la culture taurine et au club taurin du territoire se propose de reverser l'intégralité donc des recettes de l'édition 2017, soit une somme de 5 460 € entre les clubs taurins à notre temporale 2017. Voilà, je vous ai demandé d'autoriser Monsieur le maire à reverser cette recette.
Contre, abstention, merci. Ariane, bourse au permis.
Alors, pour la bourse au permis, on demande à voter donc, des modifications au niveau de la convention de partenariat. Donc, le plus gros changement, donc, déjà, à savoir que ça a été fait avec les auto-écoles, on a fait une concertation avec les auto-écoles et on a modifié en fonction des expériences qu'on a pu avoir avec les jeunes. Alors la plus grosse modif, c'est que le forfait complet donc reste à 1 200 €, mais à l'intérieur, au lieu de 25 heures, on a 30 heures de conduite, et que le code c'est l'inscription par les jeunes eux-mêmes, mais ça c'est une loi qui est sortie en 2016 qui oblige à ce que les jeunes aillent s'inscrire par eux-mêmes au code et donc payer leurs 30 € de cotisation par rapport à ça. Donc voilà, les plus gros changements sont là, et bien voilà, c'est ce que l'on vous demande de voter. Il n'y a rien de plus, si ce n'est, je tiens quand même à rajouter que donc effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, les auto-écoles ont été concertées. Il y en a quelques-unes qui ont décidé de ne pas entrer dans le système.
dont celle de Carnon. C'est leur choix, parce qu'ils ne veulent, pour eux, les tarifs sont trop bas, et il faut savoir quand même que la bourse au permis, combien on en a une dizaine. Donc voilà, on en donne une dizaine répartie sur toutes les auto-écoles, donc au maximum, on leur demandait de faire un effort sur deux jeunes de la commune. Ils n'ont pas souhaité, c'est leur choix, mais en tout cas, tout le monde a eu son choix, et sur Montlieu, c'est pareil, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas accepté. Voilà, mais ça a été laissé libre choix par rapport à ça. Voilà.
Bon, alors, on passe au vote.
Ça représente combien de jeunes ?
Alors, on a 5 000 euros.
Donc, on a une enveloppe fixe.
On a une enveloppe fixe de 5 000 euros et on le fait en commission sous peu d'aide financière. Donc, Simone est là régulièrement quand on le fait.
Donc, on choisit les dossiers ?
Ah oui, les dossiers, si vous voulez, se sont soumis à des critères en fonction de l'évaluation sociale, avec des critères très précis. Et au-delà de l'évaluation sociale, c'est l'engagement du jeune dans la professionnalisation ou dans un projet professionnel qu'il veut. Voilà. Puisque derrière, il y a chaque fois, je vous rappelle, c'est du donnant-donnant. On leur donne cet argent-là, mais ils font des heures de travail alors que l'on choisit en fonction de leur projet.
Combien on en garde 10, combien sont repoussés à la louche, hein.
Je suis incapable de vous le dire, je vous le dirai plus tard, je me marque, je vous le dirai plus tard, mais je suis incapable de vous le dire. Après, il n'y a pas énormément de demandes quand ils font le. De tête, on en a deux, on a dû en refuser deux. L'année dernière, on a dû en refuser deux.
Il est arrivé quand on prenait les dossiers de
l'assurance. Et il est arrivé, oui, quand on prenait les dossiers. C'est tout à fait. On est arrivé il y a une année où on avait refusé un parce qu'on sentait que le jeune n'était pas encore assez investi, etc. Et une fois qu'il a eu son projet beaucoup plus défini, il est passé et là, il a eu la bourse.
Allez, on passe au vote. Contre ? Abstention ? Merci. Laurent ? Un petit retour à cette séance de conseil municipal. Monsieur le maire vous a annoncé le surclassement démographique de la commune de 40 à 80 000 habitants. Dès lors, afin de mettre à jour le tableau des effectifs au regard de la nouvelle strate de population, il est proposé de supprimer les 4 emplois fonctionnels actuels et de créer 4 emplois fonctionnels suivants à compter du 1er décembre. Pas d'augmentation des nombres d'agents. Juste des agents qui changent de échelon. Donc toujours un DGS, deux DGA. Seul un petit point quand même qu'il faut élucider. Il y en a un qui prend un grade de général. C'est quand même toujours bien à préciser. N'est-ce pas, M. Borel ? Voilà. On vous propose donc de délibérer sur le sujet.
Comme ça, c'est obligatoire.
Hein. C'est obligatoire. Du moment qu'on sert le strat, on change les emplois fonctionnels.
On en a 4.
Ils changent.
On les élimine, on les reprend.
Merci pour le
vote. Contre, attention. Je vous remercie.
Donc on a un général maintenant.
Donc on aborde le point sollicité par M. Pradeil, Mme Combarnou. Donc je vous lis le courrier. Monsieur le maire, l'agglomération du Pays de l'Or a souhaité confier le camping des Saladelles à la société 4N en bail amphithéotique administratif. Selon la délibération de l'agglomération, le bail est conditionné par la position de la municipalité de Mouillot-Carnon sur au moins deux questions. Le renoncement à la convention d'utilisation de l'espace multisport qui lie la ville et l'agglomération. 2. L'établissement des permis de construire demandés par le preneur. Ce dossier semble poser plusieurs problèmes de nature juridique, nouveau PPRI, délimitation des parcelles, faisabilité de nouvelles conventions pour l'espace multisport. Il semble également cristalliser l'hostilité des usagers. À la suite d'échanges avec vos adjoints, ces derniers espèrent une réaction de la municipalité de Mouillot-Carnon. Bon, je note, M. Pradeil, je vous prends comme Messie Dominici, avec vous êtes. Ouais. À la vue des délais impartis, nous pensions qu'une délimitation serait à l'ordre du jour du conseil municipal du lundi 2 octobre, ce qui n'est pas le cas. Aussi, il nous serait agréable d'entendre votre position officielle sur ce dossier lors des informations du maire ou lors des questions diverses. Vous pourriez recevoir nos sollicitations distinguées, Christine Combarnous, Laurent Pradeil. Bien. Alors, vous posez un sujet avec une analyse à laquelle je ne souscris pas. Et pour que les choses soient bien objectives, je résume. Vous
dites que la commune devrait prendre une délibération pour défendre son droit. Alors aujourd'hui, l'article 8 du bail amphithéotique qui a été signé entre Capfen, le repreneur de la DSP, et la commune, dit: le preneur est autorisé à exploiter le site du City Park, espace multisport municipal, aux conditions suivantes. 1. Réaliser des investissements en cohérence avec la vocation actuelle du site, sur l'année 2018, terrain multisport, terrain de pétanque. 2. Assurer l'entretien et la maintenance du site au même titre que l'ensemble du camping. 3. Et j'attire votre attention là-dessus. Conserver une ouverture totale des infrastructures au public et garantir un accès gratuit, et ce, toute l'année, aux usagers, aux habitants de la commune, aux associations sportives, etc. Ces infrastructures devront conserver leur vocation d'espace multisport, ça c'est le même. La présente condition est conclue sous la condition résolutoire que soit résiliée la convention d'occupation accordée par la communauté d'agglomération des Pays de l'Or à la commune de Mouillot-Carnon en vue de l'exploitation de ce site dans un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du présent bail. Effectivement, le preneur étant Capfen et non plus la communauté d'agglomération, les dispositions entre la communauté d'agglomération et la commune deviennent caduques dès lors que la communauté d'agglomération se dessaisit de la gestion de l'espace. Mais au préalable, écoutant nos demandes, je rappelle que le maire de Mongur défend les intérêts de la commune au sein de l'agglomération et ce n'est pas incompatible avec les intérêts de l'agglomération d'un dépêche à certains. Donc, j'ai veillé à ce que la vocation de ce terrain, de cet espace, soit toujours ouverte, gratuite et dédiée au public. C'est-à-dire, au lieu que ce soit à charge de l'agglomération, à charge de la commune, d'aller en faire un entretien avec des fois le concours des services de l'agglo, là, c'est le preneur qui, dans le cahier des charges, doit assurer l'entretien et la maintenance du site. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque?
Alors, plusieurs choses. Moi, politiquement, je suis défavorable, pour dire de mon part, hein. Je suis défavorable à la montée en 5 étoiles ou en 4 étoiles, de ce camping 2 étoiles qui est super sympa avec une clientèle qui convient bien à l'offre.
Ça, c'est pas le sujet, mais vous pouvez le dire.
À l'offre commerciale.
On avait battu un conseil d'agglomération la semaine dernière.
Donc, ça, c'est ma position. Je suis plutôt défavorable et je suis pour qu'on laisse les gens qui viennent là depuis longtemps, qui sont un peu des piliers de Carnon.
Ils ne sont pas chassés, il y a 20% d'espace qui leur sont dédiés. Continuez.
Non, mais ça, c'est pour les mobiliums, c'est moins vrai pour les caravanes. Donc, ça, c'est ma posture. Je suis défavorable. Ensuite, sur le montage de l'opération elle-même. Donc, bien évidemment, vous avez relu, il faut une délibération de Mogio pour dénoncer la convention qui est liée à l'agglomération. Ben, vous venez de le lire.
J'ai pas dit que.
Donc, deuxième élément, je pensais, moi, qu'une convention formalisée, si c'était nécessaire avec Capfen, ne serait plus, plus prudente. Troisième point, il y a eu des échanges, je vous donne peut-être la référence, il y a une question publiée au Géo en 2016, c'est une question écrite 22-329, qui demande si on peut confier un service public, c'est-à-dire l'accès à des installations sportives, ce qui caractérise un service public, par le biais d'un bail amphithéotique. La réponse du ministère est non. Donc ça pose un problème pour notre service public. Je pense que ça pose un problème. Je le livre pour pas qu'on ait d'ennui plus tard. Deuxième élément, cette délibération de l'agglo a été prise avant qu'on ait transcrit notre PPRI. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport aux constructions de Capfen. Est-ce qu'on va avoir un nouveau PPRI? Est-ce que cette zone possible empêche ou porte ou permet tous les aménagements possibles? que j'ai entendu, ce que j'ai entendu, c'est qu'il risquait d'y avoir, des problèmes. Donc c'est un deuxième élément. Troisième et dernier élément à ce stade de la discussion. Moi, j'aimerais savoir quel est le statut du terrain précis du parc pour camping-car, qui est extérieur au camping lui-même, à la clôture du camping. Je pense que cet espace-là a été pris sur une route. Donc je pense que c'est un chemin communal ou une rue. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le confier par un bail emphytéotique de par sa nature de domaine public de la commune. Donc ça, c'est la série de questions de fragilité juridique. Et en plus de ça, je vous redis mon hostilité à l'approche de l'agglomération.
Mais alors, c'est un sujet que j'ai accepté de mettre à l'ordre du jour, parce que s'il concerne les affaires communales et surtout les usagers carnonnais ou magoriens de ce city park, nous avons avec Jean-Albert, depuis des années au départ, voulu ce city park à côté du gymnase, l'espace Jean Bisciglia. Bon, le dysfonctionnement de cet espace vis-à-vis des riverains, comme quoi nous prenons en compte les demandes des riverains, nous a amené à disposer de notre espace lors justement d'une reconfiguration de l'usage d'un terrain appartenant à l'intercommunalité, que l'intercommunalité voulait reprendre et qu'elle a accepté de prêter avec une convention à Moglio, Carnon, à la municipalité, pour que les jeunes quand même de la commune ne perdent pas tout. Aujourd'hui, il y a la garantie que cet espace gardera ses fonctionnalités, c'est l'entretien qui ne sera plus assuré, qui sera assuré par CAPFEN. Par rapport à ce que vous dites, donc là je ne vois pas de préjudice prévisible, je n'y vois que d'ailleurs l'espace était ouvert aux campeurs précédemment. Par rapport aux lois en termes d'urbanisme, le preneur, lui, s'engage à faire toutes les formalités. Ces formalités seront, bien entendu, visées par l'État. Il est prévu, si toutefois c'était la tranquillité des riverains qui était en cause, il est prévu la construction de merlons ou de murs anti-bruit pour justement éviter un problème de voisinage, d'autant que les activités, de toute manière, s'arrêtent à une certaine heure et que le système qui est proposé est un système qui a déjà fait ses preuves dans d'autres endroits en France. C'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas de souci. En revanche, eux feront les démarches relatives à la possibilité avec l'État de donner une amélioration à ce terrain de loisirs, à ce terrain de camping. Je ne peux pas dire plus. Et aujourd'hui, ce débat est porté par l'agglomération, il nous concerne d'une certaine manière. Je ne souhaite pas qu'on refasse le débat des autorisations, des interdictions. Je dis simplement que la commune, vous nous alertez, votre courrier est assez alarmiste. Bon, vous voulez qu'on parle du sujet. Vous avez réussi, on en parle. Bon, ça ne me dérange pas. Pour les personnes qui ne siègent pas à l'agglomération, je dis que nous allons recevoir les campeurs avec les riverains et même les commerçants de Carnon pour informer du projet, que les gens se rassurent, qu'ils posent des questions et qu'on les informe sur ce que sera le devenir de cet espace. Voilà, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de choses en particulier. Et si l'urbanisme ne permet pas, eh bien ça ne se fera pas. C'est tout. Voilà. Ouais, je peux pas vous dire mieux. Madame Camarados, restez dans les clous, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais que ce soit par rapport à votre demande, ne me faites pas un commentaire sur les campeurs. On en a parlé au conseil d'agglomération, on est d'accord.
C'est pas sur les campeurs.
D'accord, non mais madame, je ne vous...
Je chose, les plans fournis par l'Office de tourisme de Carnon, les plans datés de 2017 ou les plans datés de 2016, donnent une répartition différente de ces espaces. Donc, je pense qu'il y a eu une validation de la part de la mairie. Moi, j'ai essayé de savoir quelles étaient exactement les parcelles qui était en cause et qui devait être mise à bail. J'ai attendu 3 semaines pour être reçue à l'agglomération du Pays de l'Or. J'ai été reçue par une chef de service qui m'a fait poireauter pendant 1 heure pour ne pas être capable de me donner le cadastre des parcelles qui vont être attribuées. Il est quand même bizarre que l'on ne puisse pas... On nous a fait voter un texte et on ne sait même pas sur quelle parcelle. Moi, j'ai vécu le premier stade de foot de Carnon qui était à Carnon-Ouest. Vous nous l'avez déménagé à Carnon-Ouest et maintenant, il n'y en a plus.
Bon, Madame Koumanos, moi, je peux entendre votre complainte, mais je ne suis pas le destinataire de la complainte. Je ne peux que vous dire que je regrette qu'on vous ait fait attendre et que vous n'ayez pas le renseignement. Mais dites-le au chef de service, dites-le au président, si vous voulez, je lui dirai, moi. Stéphane Rossignol, quand je le dirai. Je lui dirai, tu ne traites pas bien Madame Comarnos. Vous voulez que je lui dise comme ça?
Mais vous-même, en tant que vice-président, vous ne devriez pas admettre qu'un contrat soit fait sur des terrains municipaux sans que le...
Mais ils ne sont pas municipaux.
Et la route du camping-car, on y circulait avant, moi j'y circulais avant.
Madame Comarnos, je n'imagine pas en ce instant que le domaine public soit aliéné au profit de l'intérêt privé. La route n'est pas aliénable, elle n'y serait pas. Je ne sais rien, moi. Je ne suis pas un technicien. Mais quand même, moi, je valide un principe. Ensuite, je fais confiance à l'administration du Pays de l'Or, quand même, pour vérifier cela avec nos services, s'il faut.
Par rapport à l'ancienneté de fonctionnaire, la route, elle appartenait, disons,
au camping. On va le vérifier. On posera la question. Voilà. Ça, c'est raisonnable.
Donc, vous soutenez le projet, et pour la suite, on vous fait une série de questions écrites. On échange.
Et puis, entre-temps, vous faites le lien avec mes adjoints. Allez, ça marche comme ça.
Ah non, mais je parle sous contrôle des campeurs, par rapport aux adjoints.
Très bien, voilà. Écoutez, rassurez-vous, nous verrons de toute façon les campeurs, nous les rencontrerons très prochainement.
Il y en a tout fort.
Voilà. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Et il n'y a pas du tout de mépris pour les gens qui étaient déjà sur ce site. C'est expliqué, vendredi. Sur le site, vendredi soir.